falloir rester un
Il y a presque autant de débatteurs que de public.
Mais d'ailleurs, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, qu'on sache à qui on parle. Et j'en profite pour vous préciser que pour poser des questions, je vais vous faire tourner un micro. Attendez d'avoir le micro, que tout le monde puisse entendre la question et du coup comprendre la réponse. Merci. Qui commence ?
Blandine Poney, je suis infirmière en psychiatrie à l'hôpital Marchand.
Patrick Fexa, je suis infirmier de secteur psychiatrique à l'hôpital Marchand et actuellement je travaille dans un CMP au Faubourg Bonnefoy et j'ai travaillé aussi au SMPR à la maison d'arrêt de Seyss pendant quelques années.
Alain Fédou, je suis à la retraite mais j'ai fait toute ma carrière en psychiatrie en commençant par l'asile qui était l'hôpital Marchand dans les années 70. Un vrai, effectivement, asile.
Donc, Chantal Roth, infirmière à l'hôpital Marchand. Moi, je travaille dans une unité qui accueille spécifiquement des patients étudiants. Voilà.
Olivier Labouré, moi, je suis praticien hospitalier psychiatre à Auch, dans le Gers. Je suis vice-président de l'Union syndicale de la psychiatrie. Et j'avais écrit un livre en 2008 qui a été publié 2 mois avant le fameux discours de Sarkozy de décembre 2008. Et ça m'a valu d'apparaître un petit peu en documentaire de Philippe Borel, qui était sympa parce qu'il m'a coupé 2 petits bouts de scène où j'ai pas été trop mauvais dans une interview d'une demi-heure à Saint-Alban l'été 2009.
Bonsoir, je suis François Ringaud, je suis infirmier à l'hôpital Marchand aussi. Je travaille dans un service d'appartement thérapeutique. Et voilà.
Bonsoir, Jean Birori, je suis cadre de santé, hôpital Marchand, et je travaille en pédopsychiatrie.
Est-ce qu'il y a des questions ? Et est-ce que vous voulez vous dire quelque chose à partir du film par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois ?
Il y a eu la victoire de Marchand, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Donc il n'y a pas que des défaites, quand même. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est quand même la confirmation et la dégradation de la situation par rapport au documentaire qui date de presque un an, hein, puisqu'il est passé à la télé sur France 5 en avril 2010. Et ce qui nous guette, là, en psychiatrie, c'est assez terrifiant, c'est la réforme des soins sans consentement, avec l'aggravation des pouvoirs de l'État d'enfermer des gens qui ne seraient pas uniquement malades, mais qui simplement porteraient atteinte à l'ordre public. Et puis également quelque chose d'assez terrifiant, parce que l'hôpital manque de moyens, hein, vous l'avez compris, une disposition permettant de soigner sans consentement à domicile. Et ça, c'est un tournant historique gravissime. C'est le fait que donc c'est une société du grand renfermement, hein, à domicile, où on pourra donc traiter et enfermer les gens chez eux. Et comme la psychiatrie publique manque de moyens, donc on ne pourra plus les hospitaliser, on les soignera de force chez eux avec des neuroleptiques retards et avec la géolocalisation, parce que Nicolas Sarkozy en parlait dans son discours. Donc voilà ce qui nous attend, et ce qui nous attend, c'est effectivement cette transformation de la société où la vie privée disparaîtra finalement et où, pour des raisons économiques, des raisons sécuritaires, les gens seront traités chez eux pour être heureux. Hein, une espèce d'hygiénisme comme ça, du bonheur obligatoire à domicile. Quelque chose d'assez terrifiant qui nous attend si cette loi passe cette année, hein, parce qu'elle a été discutée en mars 2011 au Parlement. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser contre ça et qu'on essaie de le faire sur la région toulousaine et Midi-Pyrénées en particulier, avec un petit réseau qui s'est constitué et un meeting qui s'est tenu en début octobre, hein, sur Toulouse.
Et du coup, qu'est-ce qui a été gagné par Marchand ? Enfin, comment ça s'est fini, cette tente ?
C'est pas fini. C'est loin d'être fini parce qu'effectivement on est parti d'abord sur des revendications, on va dire basiques en termes de moyens, hein, en personnel, etc., en termes de qualification personnel aussi, puisqu'on assiste à de moins en moins de personnes, et quand on a des personnes avec des qualifications moindres liées à la réforme des études pour les infirmiers, etc., etc. Et très vite, de ces revendications catégorielles, effectivement, on est arrivé à des débats beaucoup plus larges, jusqu'à effectivement cette fameuse refonte de la loi de 90, dont tu viens d'aborder un des points principaux. Alors, ce n'est pas fini, parce qu'effectivement, on considère que Marchand a peut-être gagné une enveloppe financière relativement conséquente, même si on n'est pas trop satisfait, parce que dans cette enveloppe, on voit quand même que l'informatique aussi est bien servie. On voudrait nous doter d'un directeur informatique en plus. On n'est pas trop d'accord quand même, parce que c'est 90 000 euros et on pense qu'il y a mieux à faire. Ceci dit, l'acte, comme c'est dit déjà dans le film, c'est quelque chose d'important parce que ça agite beaucoup nos gestionnaires. C'est pas fini parce qu'effectivement, ce que l'on compte, c'est fédérer l'ensemble des énergies, des citoyens, des salariés et autres, dans son ensemble pour effectivement faire en sorte que la santé en règle générale soit mieux prise en compte dans notre société et qu'on abandonne enfin ces politiques gestionnaires pour revenir effectivement à une recherche de sens qui fait de plus en plus défaut.
Oui, mais je voudrais revenir à ce film qui est quand même assez fantastique. Alors moi, ce que je me demandais, c'est si finalement on n'utilise plus les camisoles de force, mais en utilisant les médicaments, est-ce que c'est pas une camisole chimique ? Et est-ce que le concept, est-ce qu'on ne s'attaque pas à un concept essentiel, à mon avis, pour tout sujet, c'est le concept de symptôme qui disparaît avec le sens qui est sous-jacent et qui transporte au fond. Voilà, c'est...
Je crois que le film dit bien, mais le dit pas peut-être suffisamment explicitement, mais dit bien que le problème qui se pose actuellement en psychiatrie, un des problèmes centraux, c'est le personnel. La lutte de Marchand, c'était essayer ou se battre pour obtenir des postes supplémentaires de soignants et pas de directeurs ou autres techniques, mais de soignants. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce qui est central dans la souffrance psychique, c'est le besoin d'accompagnement. Accompagner des gens qui sont mal dans leur peau, pouvoir effectivement repérer leurs problématiques, poser un ensemble de symptômes et en tirer un sens de cet ensemble de symptômes. Ça demande du temps et ça demande des soignants. Ça demande d'accompagner la personne, d'abord éventuellement dans une hospitalisation continue si nécessaire, mais ensuite effectivement dans un certain nombre d'étapes. On l'a vu dans le film, il y a un moment où effectivement un psychiatre dit si on veut rentrer un patient qui est en urgence, qui nécessite une hospitalisation en urgence, il va falloir déterminer qui on vire. Voilà. Et ça, c'est un problème actuel, effectivement. Il faut des places, mais il faut aussi des gens pour accompagner dans le suivi au-delà, jusqu'à la réinsertion. Et sans doute aussi au-delà, c'est-à-dire mettre en place des liens qui permettent effectivement à la personne de pouvoir, quand elle ne se sent pas bien, de faire appel. Vous savez que le drame de Pau, c'était effectivement ça. C'est le fait qu'à un moment donné, la personne a commencé à délirer. La famille a essayé d'alerter les soignants et puis voilà, il était dans la nature et il a fini par tuer. Mais il n'aurait pas dû si effectivement les liens thérapeutiques avaient été posés et si la personne avait continué d'être suivie à sa demande. Il aurait fait appel, effectivement, comme il a pu signaler à sa famille qu'il n'allait pas bien.
Pour répondre sur la question des médicaments et de la camisole chimique, vous savez, la folie, c'est très, très, très résistant. Et effectivement, les médicaments... Enfin, on peut écraser quelqu'un par des médicaments. Je crois quand même que maintenant, on sait les utiliser. Effectivement, il y a une abrasion des symptômes, c'est sûr et certain, mais en même temps, c'est quand même avec cette diminution de la force symptomatique, c'est le symptôme, je crois, pas tellement qui disparaisse, c'est plutôt sa violence qui diminue. Et il me semble que ça, c'est quand même ce qui nous sert de possibilité, enfin, ça nous rend possible le fait de rencontrer quelqu'un. Parce que quand quelqu'un est complètement parti dans son délire et tout ça, on peut toujours essayer de dire que le délire a du sens et qu'il faut le comprendre. Mais en fait, il est complètement inatteignable la plupart du temps. Je crois que la question de la camisole chimique aujourd'hui, c'est quand même plus tellement la question. La question qui est posée dans le film... Et beaucoup plus importante, c'est l'emprise des laboratoires de plus en plus envahissante et le fait que eux, ils inventent, je sais pas, par exemple, le médicament qu'on utilise le plus pour contre la psychose s'appelait les neuroleptiques. Qui était une sorte de construction. Enfin, le mot même est une construction. Aujourd'hui, on appelle ça, les laboratoires appellent ça des antipsychotiques. Mais ça ne tient pas debout. C'est-à-dire que la psychose comme entité clinique, on n'a aucune preuve du fait que ça existe en tant que tel. Il n'y a pas de gène de la psychose, il n'y a pas de microbe de la psychose. C'est une construction de la pensée médicale, psychiatrique, qui nous sert à nous repérer dans la problématique de quelqu'un. Mais si on va en Allemagne, par exemple, la psychose est différente. Enfin, le découpage des maladies, en tout cas en Angleterre et en Allemagne, est complètement différent. Eh bien, les médicaments, les laboratoires appellent maintenant le médicament antipsychotique. Et c'est un scandale. Ça montre comment il fonctionne, comment. C'est ce que disait Gori dans le film. Hein, il crée des. Au fond, ils sont pratiquement à créer des pathologies pour avoir le médicament qui répond, quoi. Voilà.
Oui, bonsoir. Voilà, alors moi j'ai très très peu de connaissances, voire pas du tout de connaissances sur ce milieu-là, donc j'espère utiliser les bons mots et sans choquer. Mais ce qui me trouble tout à l'heure, quand monsieur vous avez évoqué le fait qu'on puisse soigner à domicile, je me dis que si on soigne à domicile, c'est qu'on fait appel. Est-ce que ce type de... Pardon ? Enfermé, carrément enfermé. Bon, alors j'avais pas bien compris, parce que être enfermé chez soi, ça me paraît tout à fait étonnant, mais il faut être quand même accompagné pour être enfermé chez soi, sinon on a le moyen de sortir, non ? J'imagine, non ? Pas forcément. Donc là, ma question, en fait, c'est est-ce que les personnes qui sont avec des pathologies de folie, est-ce qu'ils sont capables d'appeler par eux-mêmes quand ils se sentent vraiment en crise ? Et à ce moment-là, quel type de soins on peut vraiment mettre en pratique à domicile, en sachant qu'on peut, j'imagine, se libérer quand même quand on est chez soi. Je comprends pas le soin à domicile, effectivement, je vous rejoins, parce que je crois que c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et voilà, je comprends pas comment on peut aider. Pour moi, soigner à domicile, c'est quand on peut être dépressif ou quand on a d'autres types problématiques de psychologie, mais pas pour ce genre de choses. Voilà.
Le président de la République parle du bracelet électronique. Et c'est quelque chose qui est utilisé actuellement pour des condamnés de droit commun. Mais si effectivement ils ont le bracelet électronique, il y a une zone. Et ils ne sortent pas de la zone. Donc on peut très bien, effectivement, être enfermé chez soi.
La médecine enferme déjà à domicile. qui est-ce qui prescrit les arrêts de travail pour une dépression parce qu'on craque au travail, par exemple? C'est les médecins qui obligent effectivement à rester entre 9h et 11h et 14h et 16h à la maison. Et qui est-ce qui vient contrôler à domicile si effectivement le patient est bien là? C'est les contrôleurs médicaux, mercenaires, employés par les employeurs. Donc on enferme déjà, par l'intermédiaire de la médecine, symboliquement, les malades chez eux. Donc ce ne sera que l'extension finalement de ça. On ne sait pas encore ce que la loi va nous dire là-dessus. Mais c'est vrai que ça, je pense qu'effectivement, logiquement, il y a une grande difficulté actuellement à faire sortir les patients de l'hôpital et à faire rentrer les patients de leur domicile à l'hôpital de plus en plus parce que il y a quand même l'inviolabilité des domiciles qui subsiste actuellement. Mais c'est vrai que les associations d'usagers font... Le problème, c'est que les associations d'usagers réclament l'intervention de la psychiatrie à domicile parce qu'ils sont en proie aux difficultés, bon, par exemple la famille du meurtrier de Pau ou d'autres. Oui, absolument, tout à fait. Donc, comme l'UNAFAM, par exemple, la principale association d'usagers, réclame un assouplissement des possibilités d'intervenir à domicile pour être soulagés. Parce qu'ils sont face à des patients, à leurs fils, leurs conjoints, qui vont mal et qu'on n'a pas la possibilité d'aller chercher. Parce que légalement, actuellement, effectivement, c'est quasiment impossible d'aller chercher à domicile. C'était plus facile il y a quelques années, mais sous prétexte de sécurité, c'est de plus en plus difficile, même pour la police, d'intervenir à domicile. Personne ne peut ouvrir le domicile de force à part la police. Elle le fait elle-même de moins en moins, si bien qu'on aboutit à un paradoxe actuellement, qui est que, par exemple, sur mon département, là, dans le Gers, pour intervenir au domicile de patients qui sont par exemple en sortie d'essai d'HO, on est obligé de faire appel au GIGN, alors que ces patients-là ne sont pas en soi dangereux forcément, ils sont en rupture de soins. Il n'empêche qu'il y a GIGN qui débarque avec un PC de crise, ils font le siège toute la nuit, ils interviennent manu militari pour réintégrer le patient. Alors après, bien sûr, très difficile de refaire sortir le patient, parce que comme le GIGN est intervenu, vous comprenez qu'est-ce qui est dangereux. Donc on va garder enfermé le patient des années à cause de ça. Donc il y a ce paradoxe que c'est de plus en plus difficile d'intervenir à domicile, à croire que c'est presque une espèce de stratégie voulue pour justement justifier une réforme pragmatique des soins sans consentement, qui permettrait facilement de faire sortir les patients de l'hôpital et de les soigner chez eux. C'est très humain, finalement. Chacun chez soi, c'est encore une fois le bonheur à domicile. Et finalement, c'est mieux d'être soigné de force chez soi avec la géolocalisation, le bracelet électronique, que d'être enfermé dans un service d'admission à l'hôpital. Ça coûte moins cher.
J'ai une petite question, s'il vous plaît. Pourquoi c'est les hommes politiques qui gèrent la maladie mentale et pas les médecins? Qu'est-ce qu'ils s'y connaissent? Quelle est leur compétence dans le domaine?
Le problème que pose le film, qui est absolument impressionnant, c'est finalement de voir comment le politique instrumentalise la psychiatrie, et comment le politique instrumentalise la psychiatrie pour promouvoir une politique de santé mentale, c'est-à-dire d'adaptation des individus, coûte que coûte, à la compétition économique. Donc de sélection presque eugénique, puisqu'on va chercher la cause de leur souffrance, de leur maladie, de leur incapacité, dans leur cerveau, va dans leur gène. Même les soigner avant même qu'ils arrivent, comme dit Marion Le Boyer dans le film. Donc cette prédiction finalement des troubles, c'est la prétention. Et effectivement, la politique est tout à fait redoutable. Benisti qui veut ficher l'ADN à la naissance, Lefebvre et Buckel maintenant qui veulent dépister les troubles du comportement chez l'enfant de 3 ans parce que c'est prédictif de la délinquance. Et puis, l'ambition derrière tout ça, alors le film en parle très peu, mais même Sarkozy a repris ça à son compte quand il parlait du fait que la pédophilie et le suicide étaient d'origine génétique. Quand il est dans un discours, il a fait l'apologie de la thérapie génique. L'ambition de ces gens-là, c'est de tuer les troubles dans l'œuf, de les tuer avant même qu'ils arrivent, voire dans les gènes. Il y a vraiment à mon avis, un retour de génisme que laisse entendre le film à la fin, il reprend la phrase de Toscales, sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. Et il faut savoir quand même que Toscales, il a créé la psychothérapie institutionnelle au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après l'expérience de l'extermination des juifs, des malades mentaux, et des juifs par les nazis. Et ce que soulève le film, c'est effectivement le retour de cette barbarie-là. Quand Portelli parle d'élimination, quand De Jour parle de sélection, normalisation, Digori aussi, on est bien en ce registre effectivement d'une sélection coûte que coûte. C'est la guerre psychologique pour gagner la guerre économique. Voilà un petit peu donc voilà pourquoi le politique finalement est en train d'instrumentaliser la psychiatrie pour servir la cause de la compétition économique à outrance. Donc, la guerre économique a besoin de mener cette guerre psychiatrique. Hein, et de la psychiatrie comme un épouvantail social brandi devant chacun d'entre nous pour nous faire peur et nous faire rentrer dans le rang. Hein.
Mais j'ai une deuxième question. Il y a un mois de ça, j'ai entendu qu'un enfant de 7 ans s'est suicidé. Et je disais à une personne, mais c'est, en 53 ans, je n'avais jamais entendu ça. Et elle m'a dit, mais à Marseille, il y a déjà une petite fille qui s'est suicidée aussi. Alors le suicide chez des enfants, c'est un truc que je n'avais jamais entendu parler. Et on peut revoir dans les journaux télévisés en ce moment, ça se multiplie. Et là, le politique, il n'a pas de réponse à ça. Et vous allez bientôt plus avoir beaucoup de malades dans les hôpitaux, puisqu'ils vont beaucoup plus vite maintenant, ils sont plus radicaux. Et les enfants ne peuvent pas me dire qu'ils sont atteints d'une folie.
Mais vous voyez, quand au fond, ça montre, si un enfant se suicide, ça montre, enfin, on pourrait dire, ça montre où notre société en arrive, ça montre des tas de choses, mais ça montre aussi à quel point il y a quelque chose dans l'humain, dans la vie humaine, qui surpasse tout, au point que l'inimaginable du suicide d'un enfant peut arriver. Quand, c'est à ça que je pensais quand je dis la folie, c'est aussi très résistant. C'est-à-dire que quand ça doit s'exprimer, ça déborde, quoi. Ça va jusqu'au bout. Et sur la question des médecins, moi, je remercie beaucoup Olivier d'être venu de Hoche. Parce que il y a quand même une disparition dramatique de l'engagement des médecins. Il y avait un syndicat qui s'appelait le syndicat de psychiatres des hôpitaux, qui a construit vraiment la psychiatrie d'aujourd'hui, enfin la loi du secteur et tout ça, qui a eu une réflexion fondamentale pour au fond faire sortir la psychiatrie de l'asile au sens asilaire du terme. Bon, maintenant, il y a 10 000 syndicats de psychiatres qui existent, il y en a plein. Et je crois que, par exemple, dans ce qui s'est passé sous la tente à Marchand, ben, il n'y avait pas de toubib, hein, ou très. Enfin, voilà. C'est l'honneur de la psychiatrie aujourd'hui, je crois, parce que aussi on est un peu en première ligne et qu'on est obligé de donner. Enfin, comment dire, on est obligé d'être. Enfin, j'allais dire d'être intelligent, on s'en fout, mais il me semble que c'est insupportable de travailler mal en psychiatrie. C'est-à-dire que si on ferme la porte d'une chambre d'isolement, ça fait partie de notre métier, mais on est obligé d'y comprendre quelque chose à ce geste-là pour ne pas se fermer une porte à soi-même et devenir con, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Ça demande de réfléchir à ce paradoxe, quoi, qui est de prendre soin et pourtant d'avoir des fois des attitudes qui sont des violences, qui seraient des violences dans la société et tout ça. Et je crois que partout maintenant, partout, je sais pas trop, mais moi, il me semble qu'on voit plus souvent les infirmiers défendre le boulot et défendre, poser les questions que les médecins. Et il y en a quelques-uns quand même de médecins, et dans la région on a Olivier Labouré, voilà. Je voulais dire deux choses. Je voulais dire que, enfin, mais ça il en parlera, la réunion à Colomiers, mais pendant que j'y pense, Portelli, qui parle aussi dans le film, là, Serge Portelli, il fait une conférence à Albi courant janvier, je sais plus. C'est un homme absolument extraordinaire.
Moi, je voulais.
Non, juste un petit commentaire. Merci, Blandine. C'est vrai que je suis très anormal, parce que je suis seul dans ma condition. Mais c'est vrai que la normalisation, la servitude volontaire, ça touche tout le monde, les soignants, les médecins. Hein, et qu'on s'accroche tous à notre petit pouvoir égoïste, c'est-à-dire que le pouvoir, Chaumont en parle, hein, c'est-à-dire que la loi du marché rentre dans la subjectivité même, hein, c'est notre subjectivité qui est conformisée, normalisée et qui change malgré nous. Hein, le profit, la concurrence, l'égoïsme deviennent la règle collective et la norme de cette société-là. Hein, donc c'est contre ça qu'il faut lutter, hein, et c'est effectivement de plus en plus dur. Voilà.
Enfin, oui, parce qu'elle me dit parle. Alors, c'est un peu pour répondre à la question sur le soin à domicile, ça, mais c'est vachement compliqué. Hein, c'est très compliqué parce que, En fait, moi, il faudrait presque faire l'histoire de la psychiatrie. Hein, mais bon, on ne va pas le faire là, parce que ça serait vraiment très long. Hein, si je commence à vous raconter des choses comme ça. Mais sur un peu comme ça, en résumant, moi, je me rappelle quand je suis rentré en psychiatrie, j'étais un enfant de vol au-dessus d'un nid de coucou. Je l'avais vu avant de rentrer à l'asile. Quand j'ai vu ce film, j'ai été sidéré. Je me suis dit, putain, il faut que j'aille bosser là-dedans pour libérer les fous. Parce que ce n'est pas possible que... On traite des gens de cette manière. Et, voilà, bon. Et quand je suis arrivé dans ce métier, je me suis dit, ah mais ouais, mais la maladie mentale existe, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc qui me dépasse, là. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont pas bien. Et qui vont pas bien à un tel point que c'est presque du domaine de l'incompréhensible, quoi. Mais finalement, à force de tisser des liens comme ça, puis de travailler au quotidien, je me suis aperçu que cet incompréhensible, c'est génial. C'est génial parce que finalement, je ne sais pas comment le définir, c'est quelque chose presque d'artistique et de poétique. C'est-à-dire que finalement, la relation humaine, elle est complexe, mais elle mérite finalement qu'on s'y attelle, quoi, je veux dire. Donc, bon, je me suis dit, voilà, c'est comme ça, il faut essayer de comprendre, puis petit à petit, effectivement, il y avait un peu cette espèce de pesanteur de l'asile, hein, c'est-à-dire qu'on l'a tous ressenti à un moment donné. On s'est dit, pas possible qu'on reste enfermé entre quatre murs comme ça. En même temps, on se rendait compte que finalement, c'était un bon contenant. C'est-à-dire qu'on voyait que les gens, tellement angoissés, tellement mal, finalement, cette espèce de contenant un peu fermé, là, comme ça, eh bien, c'était moins normal, quoi. Et puis tout d'un coup, petit à petit, parce que là, à l'époque, on nous a laissé la possibilité, on a ouvert, hein, on a cassé ces murs et on s'est mis à bosser au plus près du lieu d'habitation des gens. Alors on a créé des structures plus ouvertes, des hôpitaux de jour, des centres de consultation, etc. Et finalement, on est allé tranquillement, on s'est rendu compte que c'était bien aussi de permettre à ces gens qui finalement avaient du mal à sortir de cette espèce de contenant très serré qu'était l'asile, de pouvoir finalement vivre dans la cité, mais accompagné. C'est-à-dire que finalement, à ce moment-là, l'appartement, quand on arrivait à faire en sorte qu'ils puissent retrouver le fait de revivre dans un appart, c'était pas un lieu aliénant ou un lieu d'enfermement, c'était vraiment un lieu d'ouverture. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les soignants, finalement, étaient là et pouvaient, de temps en temps, en essayant d'être le moins intrusif possible, de pouvoir faire ce pont entre l'hôpital, entre ces structures de jour, et puis les appartements. Donc du coup, soigner les gens à domicile, à ce moment-là, avait une valeur humaine, et pas ce qu'on a entendu, effectivement. Et c'est vrai que... Maintenant, on entend parler, par exemple, de quelque chose que j'ai entendu parler, ça s'appelle... je crois que ça s'appelle Houses... c'est des trucs anglais, hein, comme ça, où finalement... il pourrait se passer qu'on s'est rendu compte que parmi les populations SDF, il y avait de plus en plus de malades mentaux, mais on s'est dit que finalement, ces allées et venues à l'hôpital, ça coûtait très cher. Hein. Alors du coup, on va les reloger, hein, dans des espèces d'immeubles finalement collectifs où ils seraient parqués, hein, et où ils seraient bien ciblés, etc. Et là, on ferait une espèce, ça serait une perversion du soin à domicile. C'est-à-dire que finalement, on recréerait des espèces de structures parfaitement ciblées, où là, on serait sûr d'avoir les gens à portée, et finalement, de faire en sorte que là, on fasse un pseudo-soin rentable, voilà, qui n'a rien à voir avec le côté humain du soin à domicile, quoi, enfin, tel qu'on l'a imaginé, etc. Enfin, c'est vachement compliqué, mais pour dire que, voilà, je trouve que ce film, il est exemplaire, il est super, parce qu'il résume parfaitement la situation dans laquelle on est, voilà.
Oui, bon, mais moi, il y a une chose quand même qu'il faut... Il n'y a pas que du poétique. Quand effectivement on a passé toute sa carrière à démonter l'asile et à créer autre chose, et qu'on s'est aperçu surtout qu'il y avait moyen, quand une équipe de soignants prenait en charge quelqu'un de délirant, qu'il y avait moyen de faire en sorte, alors avec effectivement les neuroleptiques, hein, pour faire baisser l'intensité du délire. Mais qu'il y avait moyen, effectivement, de travailler le délire de façon à ce que la personne, certes, elle va continuer d'entendre des voix, mais ces voix, elle va se mettre à les connaître. Et ça va moins lui faire peur. Et à un moment donné, avec l'aide des soignants, ben, ces voix, elles vont peut-être continuer, mais ça va être une partie d'elle, hein, de cette personne, une partie qu'elle va avoir pacifiée. Ça, pour atteindre ce résultat, il faut des mois de travail, hein, ou des années. Mais effectivement, on y arrivait. Moi, j'ai plein d'exemples en appartement thérapeutique de gens qu'on a remis dans un appartement à eux, après l'appartement thérapeutique, qui, effectivement, ont repris des liens et ont de nouveau eu des amis, des copains, eu la famille, une vie normale avec des loisirs, hein, avec éventuellement un travail, mais ça, dans notre société, ça devient quasiment impossible. Hein, quand on voit effectivement la façon dont les services publics disparaissent et où les grandes entreprises qui intégraient beaucoup de gens qui étaient un peu à la limite, hein, comme la SNCF, les PTT, il y avait plein de gens qui étaient soutenus par les collègues comme ça et qui arrivaient à avoir un boulot et à avoir une vie normale. Mais c'est plus possible actuellement, c'est plus possible, on élimine tout ça. Hein, voilà. Mais par ailleurs, la vie dans la cité avec effectivement un petit délire, mais qui arrive à être pacifié, eh bien ça, effectivement, c'était possible. Mais c'était possible avec des gens qui avaient appris le métier, c'était possible avec un personnel suffisamment nombreux, et c'était possible avec toute la série des structures, avec l'hôpital de jour, avec le CMP, avec les appartements thérapeutiques, et le personnel qui va avec, forcément. Mais c'est le personnel qui fait défaut actuellement, parce qu'il faut le payer, le personnel, forcément. Il faut le former et il faut le payer. On ne veut plus le former, on ne veut plus le payer. Donc, effectivement, actuellement, les patients, eh ben, ils sont traités par les médicaments, et puis, effectivement, ils vont, comme le film le disait, de la rue, tant qu'il y a la famille, encore, la famille peut assumer, mais ils vont de la rue à la prison. Moi, je m'occupe de la prison actuellement. Eh ben, il y a à Muret, au CD de Muret, il y a au moins un quart de la population qui relève de soins psychiatriques. Voilà. Donc actuellement, notre cher président a choisi effectivement de créer de la prison psychiatrique. Hein, l'hôpital psychiatrique va avoir un secteur de prison, en fait, tout simplement. Donc on va pouvoir mettre les gens qui ont une souffrance mentale en prison, on va pouvoir les foutre à l'asile, reconstitué, bien fermé, bien sécurisé. Oui, plus fermé qu'avant. Et les surveillants seront rassurés, parce que les surveillants, ils ne sont pas formés pour prendre en charge un délire. Voilà.
Alors, excusez-moi. Je travaille moi aussi à l'hôpital Marchand, et je voulais vous remercier d'avoir eu ces interventions et avoir pu montrer ce film. J'ai assisté aux autres projections aussi, qui expliquaient un peu du coup l'histoire de la psychiatrie. Et voilà, je suis contente de voir qu'il y a du monde à Marchand, et ça je le savais par rapport aux gens avec qui je travaille, mais aussi dans les autres hôpitaux, qu'on arrive à faire du lien quand même sur le sens qu'on veut donner à notre travail. Sauf que il me semble qu'on s'épuise à demander tout le temps à ce qu'il y ait du sens. On n'est pas très aidé dans les nouvelles politiques, mais aussi à ce qui est appliqué à l'hôpital par notre hiérarchie. Et quand je vois le film, qui est très touchant à la fois sur les témoignages des patients, des soignants, de cet univers de la psychiatrie, et que j'entends un autre discours, je me dis on ne parle pas du tout le même langage entre les idéologies politiques et les labos et les financiers et ce qu'on fait nous au quotidien. Et je me demande comment on peut arriver en ne parlant pas le même langage, en n'ayant pas les mêmes objectifs, à un consensus. Alors je suis peut-être pessimiste, mais voilà, c'est un constat que je fais. Après je me dis c'est peut-être par des interventions telles qu'on peut avoir ce soir dans la cité, puisqu'on parle du patient dans la cité, qu'on peut aussi toucher les gens qui n'ont pas d'abord direct avec la psychiatrie. Et ce que je comprends, hein, ça peut faire peur, on n'a pas envie de savoir, mais du coup, ben, on est plus sensible aux messages des journalistes ou de ce qui est diffusé que par le concret de ce qu'on vit en tant que soignant à l'hôpital. Voilà, c'était juste un questionnement sur jusqu'où on va et jusqu'où nous aussi on peut aller sans s'épuiser.
Ouais. Moi, je pense que l'action qui a été menée sous la tente, ça a été, je pense, un besoin de nombreux soignants sur Marchand qui avaient justement envie de réfléchir à comment soigner autrement. Parce qu'en fait, bon, au départ, ça a été des revendications. Au départ, on est parti, soi-disant, sur les retraites. Bon, après, ça a amené à d'autres revendications. Mais en fait, ce qui s'est passé sous cette tente, c'est justement des échanges autour du sens. Et on a vraiment compris que c'était vraiment super important de pouvoir se rencontrer. Parce qu'en fait, à l'hôpital Marchand, il y a plein de gens qui sont motivés, qui ont envie de travailler différemment, mais qui n'ont pas les moyens de se rencontrer. Et ce moment-là, ça a vraiment permis de fédérer le personnel et de redonner de l'espoir. Hein. Parce qu'en fait, bon, c'est sûr, on avait une liste de revendications par rapport à la direction, mais c'est allé au-delà de ça. Et je pense que pour ne pas s'épuiser, il faut, je pense, pouvoir être dans la lutte. Résister, s'indigner. Et puis, comment dire, se regrouper, quoi, pas rester isolé. Parce qu'on peut très vite être en grande souffrance quand on se retrouve isolé dans un service. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à suivre de près la suite du mouvement de l'attente. Et donc, je vous ai parlé là de la réunion qui aura lieu au mois de février. Après, bon, il y a des actions qui vont être mises en place contre l'ARS, hein, qui est quand même notre tutelle. Et en fait, ça fait beaucoup de bien, ce genre d'action, et puis de voir qu'on n'est pas tout seul. Voilà.
Oui, juste quelques mots après Chantal. Je voulais te remercier d'abord de ton intervention. Et puis te dire quand même, quand l'hôpital a été détruit par l'explosion d'AZF en 2001, on a fait foudrage. J'avais fait un collectif avec un médecin pour dire qu'est-ce qu'on, enfin voilà, pour dire qu'est-ce qu'on veut absolument garder de la, enfin de quoi on a absolument besoin pour soigner puisqu'on n'avait plus d'hôpital. Et à cette époque-là, mon expérience ça a été quand même d'éprouver très douloureusement et violemment à quel point la parole sur la psychiatrie était difficile, même dans un collectif où les gens étaient motivés pour être là, et aussi le blackout total qui y avait sur la destruction de l'hôpital Marchand dans la presse, partout et tout ça. Et je trouve que l'expérience de l'attente est... Ça montre que ça change, mais si l'expérience de l'attente a été possible aussi, c'est parce que avant, peut-être aussi, il y a eu l'appel des 39, il y a eu l'appel des appels, il y a eu le bouquin d'Olivier Labouré, il y a eu. Je crois que la pensée, elle se remet en route sur la psychiatrie. Et j'adhère absolument à ce que dit Chantal. Surtout, ne restons pas seuls. Surtout, on a vraiment, vraiment besoin, dans ce boulot pour tenir le coup, de parler ensemble. Et normalement, si un service marche bien, il doit avoir des réunions d'équipe qui sont des réunions qui servent à discuter et tout ça. Mais bon, la plupart du temps, il y a des réunions, mais elles sont vides et tout. Et donc, non, il faut surtout pas rester seul et aller se trouver les collègues avec qui on peut parler, quoi. Voilà.
Moi, juste pour... avant de... Donc, par rapport au sens, je veux dire que la perte de sens, elle est vraie chez les soignants, mais elle est vraie aussi dans d'autres catégories professionnelles à l'hôpital. Le problème est identique. Ce qui a du sens aussi, c'est que de savoir, par exemple, que le directeur de l'ARS est un parfait gestionnaire, et on voit ça au niveau de son parcours, notamment chez Carrefour. Il faut le savoir. Notre directeur, c'est quelqu'un de bien, qui s'est aussi illustré dans divers endroits à l'hôpital, où pour lui, effectivement, tous ces lieux de rencontre de professionnels dans des réunions diverses, réunions de soignants, hein, réunions de synthèse, réunions, on peut appeler ça ce qu'on veut, pour lui, c'est un peu les guirlandes qu'on accroche au sapin de Noël, et c'est surtout pas rentable. Pendant ce temps-là, on ne travaille pas. Et effectivement, oui, il faut rendre les heures en plus. Donc, et c'est vrai aussi que parmi les cadres, il y en a qui perdent leur latin. Je ne parle même pas de sens, parce qu'ils n'ont jamais travaillé en psychiatrie. Et pour eux, ils sont effectivement dans la dynamique managériale actuelle et majoritaire. Donc, rester seul, c'est la pire des choses. Et je pense qu'effectivement, le combat, c'est au quotidien, auprès de ses collègues de travail, dans les équipes, par rapport à sa hiérarchie. Alors après, suivant les endroits, il y a des diversités tout à fait diamétralement opposées. Et en termes de facilitateurs de sens, parfois les médecins ne sont pas très facilitants dans ces revendications-là. Chercher le sens, c'est penser. Penser, c'est désobéir. C'est pas bien par les temps qui courent. Nous ne sommes plus dans la norme.
Blandine m'a demandé, c'est ce que je voulais dire, parce que pour pouvoir s'indigner, pour ne pas s'épuiser, c'est effectivement important, je pense, de pouvoir se regrouper et de créer des dispositifs alternatifs qui le permettent pour faire du réseau, pour faire du collectif et aussi pour se former, parce que c'est une des catastrophes dans le soin, ça a été la disparition du diplôme d'infirmier psychiatrique, ou par exemple aussi maintenant le fait que dans la formation psychiatrique, la formation des psychiatres, il n'y a plus de formation en psychothérapie, c'est purement du neurologique, du génétique, du biologique, du comportemental. Et pour ça, moi je pense que c'est important, par exemple, le dispositif des associations culturelles. J'en parle parce qu'avec Olivier, on fait partie d'une même association culturelle sur le Gers, ça. Métier à tisser. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas à Toulouse, voilà, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce genre de collectif qui permet de penser, de faire du sens, de trouver du sens, de réfléchir ensemble et de remettre au goût du jour la psychothérapie institutionnelle parce que voilà, faut la faire vivre et pour le bien des soignants et pour le bien des patients. Voilà.
Alors, je voulais dire quand même que ce n'est pas au consensus qu'on a déconstruit l'asile. C'est au rapport de force, et c'est progressivement. Il n'y avait pas consensus pour en finir avec l'asile. Il y avait plutôt consensus, à la limite, pour le conserver. Donc la lutte, elle est venue peu à peu de gens qui n'étaient pas d'accord, comme lui, moi, voilà, et d'autres, et Jean-Pierre, et qui progressivement ont fait passer au niveau des équipes, au niveau d'une équipe, au niveau de deux équipes, ont fait passer progressivement une autre façon de traiter les gens, une autre façon de les considérer et une autre façon d'entendre ce qu'ils disaient, d'entendre surtout, une autre écoute, une mise à l'écoute. Le sens, c'est pas moi qui le porte, le sens. Le sens, c'est l'équipe qui va effectivement le tisser, le sens, pour effectivement que le patient puisse à un moment donné s'y retrouver et avancer dans la compréhension de lui-même. Mais ce n'est pas une personne, hein, ce n'est pas un toubib même ou un soignant qui va effectivement délivrer le sens comme on délivrerait la bonne parole. Le sens, effectivement, c'est une équipe qui va le tisser progressivement. Il est collectif, le sens. Et il est collectif aussi parce qu'effectivement, le sens, c'est le langage, et que le langage, ce n'est pas le mien, c'est effectivement, il me dépasse, hein, il est collectif, il appartient au groupe.
Voilà. Bonsoir, je fais partie des personnes qui ont été reçues sous la tente sans être partie prenante des revendications que vous avez. Disons, les gens qui viennent vous voir quand vous dites que vous ne voulez pas rester isolé. J'ai été très sensible à la façon dont on se parlait. À l'intérieur de cette tente, une qualité d'attention portée à ce que quelqu'un qui vient de l'extérieur peut dire, tout à fait étonnante. Et quand je suis revenue après le jour de l'an, j'étais tout à fait déçue qu'elle soit démontée, la tente, parce que c'était un endroit que je pense utile. Maintenant, il y a dans le film, je ne l'ai pas revu là parce que je n'avais pas de place, mais de mémoire, la scène que je trouve pour moi la plus violente, c'est dialogue, enfin on croit que c'est un dialogue entre une dame tout à fait formée d'une certaine façon et des enfants devant un ordinateur à qui on demande aux enfants de répondre par oui ou par non à des questions extrêmement intimes et très délicates. Et ce qui m'a... Donc je trouve cette scène d'une grande violence. On voit les enfants, je crois me rappeler, se mordre un peu les lèvres comme ça. C'était l'innocence incroyable avec laquelle la dame se livrait à ça, sans avoir l'air de ressentir la torture qu'elle fait subir. Et je reviens à l'attente pour ça, parce que si les gens qui gèrent la pratique des soins actuellement encouragent les gens à ça, à se trouver à l'aise dans ce genre de pratique, ça veut dire qu'il manque quelque part quelque chose que j'ai envie d'appeler un contre-feu, c'est-à-dire un endroit où on parle autrement. Et je me dis que si cette petite fille allant à la consultation et si cette dame allant prendre son poste de travail pour faire ce boulot bizarre passe à portée d'un endroit où on parle différemment, je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais ça maintient quelque chose. Et c'est pour ça que, indépendamment de vos revendications, de vos postes et tout ça, je pense, comme le monsieur qui parle d'associations culturelles, qu'il faut trouver des endroits bien placés et une façon de se parler. Ce n'est pas seulement de la revendication, c'est continuer à parler une langue quand ils en parlent une autre.
Moi, je trouve intéressant ce que vous dites, parce que moi aussi, j'ai trouvé remarquable, puis je pense que le caméraman qui a tourné cette scène, en plus avait sa subjectivité personnelle, il a su montrer, finalement, là on voit la différence de concept entre deux pratiques de soins, hein, c'est-à-dire ce vers quoi on va malheureusement, c'est-à-dire cette pratique implacable, rentable, protocolisée, hein, de quelque chose qu'il faut quantifier, etc., qui est absolument abominable. Et je trouve intéressant, effectivement, nous, ce qui nous intéresserait dans le soin, là, c'est pas tellement les oui et les non que fait la petite fille devant cet ordinateur, mais c'est son pincement de lèvres, c'est la façon de... Voilà. Je veux dire, ça, c'est le sens. Et je trouve que je trouve qu'au niveau de l'image, c'est remarquable, parce que je crois que là, on touche à deux concepts de l'approche humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qui va plutôt nous intéresser à ce moment-là, c'est ça. C'est pourquoi cette gamine à qui on impose cette espèce de torture informatico-médiatique, je ne sais rien, hein, elle, à un moment donné, elle pince les lèvres. Voilà. Parce que là, je pense que finalement, elle montre à quel point il y a un décalage entre son intime, qui certainement ne peut pas sortir, là, c'est pas possible, hein, tellement qu'elle est intrusée, et ce qu'elle est obligée de répondre à cette espèce de personne qui l'interroge, qui est dans cette espèce de, comment on va dire, de neutralité bienveillante. Voilà.
Je profite du trajet du micro pour dire que quand on dit que l'attente, c'est pas fini, c'est aussi un petit peu dans cette idée-là, c'est-à-dire que, comme on l'a dit plusieurs fois, on a constaté, après avoir installé cette tente pour obtenir de la visibilité et avoir du poids dans le rapport de force sociale pour nos revendications, on s'est rapidement, mais extrêmement rapidement, dans les premiers jours, rendu compte qu'il y avait une attente, non seulement de la part des collègues qui s'y arrêtaient et qui profitaient de cet endroit pour discuter du sens et de leur volonté de travailler avec plus de sens, mais aussi des gens qui s'y arrêtaient pour venir voir ce qui s'y passait et qui s'y intéressaient authentiquement, alors qu'ils passent devant l'hôpital Marchand tous les jours sans s'être posé la question jusque-là. Donc quand on dit que l'attente, c'est pas fini, c'est peut-être que aussi c'est encore frais, mais c'est que l'idée éventuellement d'une association, d'un collectif, on ne sait pas trop quelle forme ça pourra prendre, mais c'est quelque chose qui est en train de germer et que moi je tiens à ce que ça apparaisse quelque part. Je ne sais pas encore trop à quoi ça ressemblera, mais il faut créer ça, parce que ce que décrivait Alain tout à l'heure d'un patient, j'ai vécu ça très très récemment, qui, grâce au lien thérapeutique, a pu me raconter que dans son appartement qu'il a, parce qu'il a quitté notre service, quand il se lève le matin, il voit quelqu'un dans sa chambre. Pendant qu'il prend son déjeuner, il entend des voix. Ensuite, il va à son travail, il se fait à manger, il s'occupe de son hygiène, il est tout à fait dans les bons scores là, de l'hôpital qui met des chiffres à tout le monde. Mais il a encore le symptôme. Donc est-ce que dans cette approche chiffrée, ce patient-là serait adapté ? C'est pas sûr. Moi, il m'a raconté tout ça en demande d'un conseil pour savoir s'il pouvait en parler à son médecin. De crainte que celui-ci n'augmente le traitement, ce qui l'empêcherait de travailler. Donc on en était, et ça c'est possible, le fait qu'il me pose cette question-là à moi, c'est possible parce qu'il m'a vu en appartement thérapeutique pendant plus de 2 ans, le soir, manger avec moi, faire les courses avec lui et tout ça. Et tout ça c'est impossible à chiffrer dans la tarification à l'acte. Donc ça existe encore, c'est précieux, il faut revendiquer que ce soin-là, cette façon, cet autre langage, comme vous disiez, a du sens et peut être efficace. Il faut le dire parce qu'on a vu que l'autre approche de la santé mentale, puisqu'il faut dire comme ça, a quand même de bien plus gros moyens de communiquer avec les gens qui prennent les décisions.
Oui, je voulais savoir comment vous faites pour établir des liens avec les autres unités psychiatriques ou du département ou des départements limitrophes. Bon, je vois qu'avec Coche, ça marche. Et bon, savoir comment vous créez du lien ou si vous allez créer du lien, où est-ce que vous diffusez le film, est-ce que ce film est diffusé ailleurs, voilà. Et est-ce que vous touchez également le milieu, école, quoi. École infirmier-psy, école éducateur, tout ce milieu qui en fait se rejoint.
Il n'y a plus d'infirmier-psy depuis 1992. Première chose, il n'y a plus d'école. Depuis 1992, le programme a changé en 2009 à la Hussarde. On ne sait plus trop où on va. Là. Par rapport au lien, alors là, je travaille à l'hôpital et je suis aussi à Sud. Très vite, sous la tente, on était déterminés effectivement à créer des liens avec nos collègues de travail au sein de l'hôpital. Ça a été rencontres sous la tente, diffusion de tracts comme on fait d'habitude et la tournée des popotes. On allait voir sur place les personnes, on discutait avec. Et puis, on a tissé des liens avec les personnes de l'extérieur, celles qui venaient nous voir de l'extérieur, des gens de l'interprofessionnel, ou pas du tout d'ailleurs, qui venaient tout simplement nous rencontrer. Et très vite, comme on sentait que ça allait bien au-delà du simple, et qu'on le savait d'ailleurs, que ça allait bien au-delà de la simple revendication de marchand, on a souhaité créer des liens et on n'était pas en nombre suffisant pour pouvoir le faire, ce qui nous a amené à faire appel à des collègues fédéraux de la Fédération Sud de Paris qui sont venus nous aider pour commencer effectivement à établir ces liens de manière très fonctionnel avec d'autres hôpitaux de la région. Alors après, c'est un travail qui va se continuer par le biais des rencontres qu'on va faire dans différents endroits. Et après, il faut voir comment on va faire. Mais on ne sait pas trop. On compte aussi beaucoup sur les rencontres que l'on a, y compris avec les organisations politiques, puisqu'on a commencé à effectivement les rencontrer de manière tout à fait officielle, entre guillemets. On a eu un meeting peu avant la fin de l'épisode de l'attente. Et actuellement, il y a eu encore une rencontre et ça va se poursuivre les jours à venir pour mener effectivement des actions beaucoup plus centralisées, y compris peut-être au niveau national. Voilà. Mais c'est un long travail de construction.
La question que vous posiez, c'était aussi peut-être la question de la transversalité. Et la question de la transversalité, elle se pose depuis plusieurs années. Il y a effectivement l'école qui est attaquée, il y a les secteurs de l'éducation spécialisée, les secteurs de handicap, la psychiatrie, les secteurs globalement de l'hôpital public, tous les services publics sont attaqués. Et c'est une stratégie. On a bien vu qu'effectivement, la stratégie du gouvernement actuel, c'est d'attaquer sur tous les fronts en même temps. Effectivement, ça limite les possibilités de mobilisation dans un combat donné. Et on est obligé de se battre sur tous les plans. La transversalité, à un moment donné, il y a eu plusieurs appels comme ça à signature. Et des gens des différents secteurs ont essayé de mettre en place une transversalité au travers de l'appel des appels. L'appel des appels est parti un moment et puis il s'est fatigué parce que justement on était sur tous les fronts à la fois, quoi. Mais il va bien falloir tenir en même temps les initiatives et continuer à créer des initiatives dans chaque secteur en lutte. Ce que disait le monsieur tout à l'heure, mais en même temps trouver des outils pour que ces différents secteurs en lutte se coordonnent et arrivent à se parler, parce qu'effectivement ce contre quoi on se bat en psychiatrie, on retrouve un peu la même chose, ou on retrouve les mêmes dimensions dans l'éducation nationale, dans la santé en général, etc. C'est ce que Olivier disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement c'est une société qui veut des individus isolés et se battant contre les autres. Donc la compétition économique de façon générale. Et c'est vrai que l'esprit service public n'est pas adéquat à cette vision d'une société où chacun est l'ennemi de l'autre. Et...
Il y a des liens qui se font multiples, avec des forces militantes réelles. Malheureusement, on est quand même minoritaire, c'est un peu toujours les mêmes qu'on retrouve. Il y a une forme de résistance au 4 décembre à Paris, par exemple, une espèce comme ça de réseau transversal des résistances dans tous les domaines, éducation, Pôle emploi, EDF, psychiatrie, etc. Il y a la politique de la peur et l'appel des appels, bien sûr. Alors en psychiatrie, plus spécifiquement, bon, il y a ce film qui tourne beaucoup, hein, qui est plus en général présenté par les gens du collectif des 39, qui est une force de lobbying. Moi, j'y suis depuis le début au 39, donc collectif contre l'ennemi sécuritaire. Avec un réel poids de lobbying politique. Ils ont quand même leurs entrées au niveau journalistique, au niveau politique, sur Paris. Bon, avec des défauts comme tout le monde. Le problème aussi, c'est pas seulement qu'on est très minoritaire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de rivalités idiotes, de narcissisme, de questions. Voilà. Ça, c'est dommage. En psychiatrie aussi, donc, mis à part ce film, il y a Mais c'est un homme, qui tourne, qui d'ailleurs est un peu en conflit, un peu en opposition, en rivalité avec le réseau des 39, parce que la question de la judiciarisation étant... Je vais un peu vite. Ah oui, mais c'est un homme, c'est donc un réseau qui réunit... Non, mais je vais expliquer, Bandy. T'énerve pas. bon, je vais un peu vite parce que c'est un vaste sujet. Mais c'est un homme, c'est un réseau qui réunit environ une vingtaine d'organisations, donc syndicats. Sud, en effet, on fait partie, l'USP aussi, la LDH, association d'usagers, comme le GIA, Advocacy, le COPSI, SERPSI, je ne vais pas oublier SERPSI, excuse-moi. C'est susceptible, je fais attention. Et donc, Mais c'est un homme a lancé cet appel contre la réforme de la loi de 90. C'est vraiment le réseau qui essaye de mobiliser, donc avec une déclinaison régionale. Donc ce meeting qu'on a fait avec Blandine et d'autres début octobre. Donc, Mais c'est un homme essaye de mobiliser également les parlementaires bientôt sur contre ce projet de loi de réforme de la loi de 90 sur les soins sans consentement. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai aussi lancé récemment un réseau national contre le fichage en psychiatrie. Bon, c'est un truc qui est très rigolo. Donc, on est une centaine en France comme ça, et ça prend du temps, donc on s'y perd un peu. Mais donc sur la question du fichage obligatoire des données personnelles en psychiatrie, très important, parce qu'il y a donc une interconnexion qui va se mettre en place très vite, surtout si ce gouvernement repasse en 2012, ce que je n'espère pas. Donc, une interconnexion très, très généralisée de tous les fichiers, c'est vraiment les cartons du gouvernement, c'est clair, la psychiatrie avec le reste, avec toujours une visée de sélection des populations. Bon. Donc il y a des tas de réseaux, il y a des tas de façons de militer, il y a des tas de choses qui se regroupent, qui se recoupent, qui prennent du temps, où il ne faut pas se perdre, il ne faut pas être en rivalité. Moi je sais que sur Roche... Oui, alors, dernière chose, quand même, Marchand, je voudrais réparer une erreur historique là. La tante de Marchand a suivi la tante d'Hoche. On a fait notre tante à Hoche. Il y a un an, fin 2009, 37 jours, on a tenu quand même. C'était plutôt en saison, donc il faisait meilleur, il faisait moins froid. c'était un mouvement formidable. Et donc, voilà, il y a une intersyndicale CGT Sud USP. L'USP, donc je suis tout seul. Sud, ils sont deux. Et la CGT, ils sont 50. Bon. Et on a signé donc un protocole d'accord et on a quand même réussi à faire partir la directrice qui a été mutée promotion dans le nord de la France. Voilà, malheureusement, c'est jamais gagné parce que il y a des rivalités, effectivement, que ce soit des rivalités de classe, pourrait-on dire, ou de jalousie, ou d'envie, hein, des choses qui sont très compliquées entre médecins, infirmiers, c'est pas si rose que ça, hein, les relations. Même quand on est engagé, hein, faut pas croire. Quand on est tout seul, on prend plein de la figure. Vous parlez du collectif, et moi, c'est vrai, bon, quelques digressions là-dessus, mais moi, je croyais à une force d'action collective, médecins, moi en l'occurrence, et infirmiers, et c'est vrai que la CGT, après la victoire de la grève, pour ne pas la nommer, est extrêmement frileuse sur les questions sécuritaires, et quelque part, m'a complètement mis sur la touche. Hein, donc, bon, je ne suis pas persécuté, mais c'est lourd, hein, de militer. C'est lourd et on en prend plein la gueule, quoi. Voilà, c'est tout. Mais il faut continuer, on n'a pas le choix.
Moi, j'ai une petite question par rapport à l'impact que l'attente ou les deux tentes ont eu sur les patients eux-mêmes et qu'est-ce que ça peut préfigurer comme participation dans les mobilisations dont on parle là.
Ça faisait de l'animation à l'entrée de l'hôpital, ça leur permettait de rencontrer leurs soignants dans un autre contexte. Parce que, bon, moi je considère que je suis dans un service, les appartements thérapeutiques, où on travaille le lien, on a une relation d'assez bonne qualité avec les patients. Mais il y a d'autres services où c'est plus difficile de mettre ça en place, où c'est plutôt dans le parcours des patients, dans leur rencontre avec l'hôpital, donc c'est plus compliqué. Et ils rencontraient là des soignants qui leur avaient distribué le traitement le matin, et alors qu'ils partaient, on appelle ça en permission, hein, se balader en ville, ils pouvaient croiser les soignants l'après-midi et partager un bout de gâteau et discuter un petit peu. Et ça, c'était fantastique quoi, dans la relation avec eux. On avait mis en place un cahier de doléances qu'on comptait faire remplir à tous nos collègues qui avaient des revendications, qui a été très vite, le premier jour, investi par des patients qui passaient par là. Et qui ont tenu aussi à témoigner de comment ils vivaient cette institution et de quels changements ils pouvaient proposer pour qu'elle soit moins violente envers eux, tout en étant très bienveillants vis-à-vis de nous, des soignants, en disant mais ils n'ont pas le choix que de nous traiter comme ça. Enfin, c'était très, très touchant, ces témoignages-là. Et c'est vrai que c'est un lieu de rencontre autrement. On était toujours des soignants, ils étaient toujours des patients. Mais on avait un espace où la relation était un petit peu plus détendue et avait pas les mêmes enjeux et c'était génial quoi.
Et puis ils avaient bien conscience du pourquoi on se battait quoi. Ils savaient très bien que c'était pour obtenir plus d'effectifs, mais également pour pouvoir les soigner dans de meilleures conditions. Donc il y en avait plein qui passaient en nous témoignant leur soutien. Je me rappelle d'un patient qui partait régulièrement en permission avec sa petite voiture et puis à chaque fois on avait droit au petit coup de klaxon pour dire bon ben je suis avec vous quoi, je vous soutiens. Donc non, je pense qu'ils l'ont, les patients l'ont bien perçu.
Puis la tente, c'était aussi parfois un lieu festif, hein, faut pas se le cacher, parce que lutter, c'est aussi parfois faire la fête, quoi. On n'est pas obligé de lutter en s'emmerdant, en faisant la gueule à tout bout de champ. C'était aussi un haut lieu d'engueulade, et puis très vite, on se serrait la main. Hein. Et c'était aussi assez jouissif, parce que cette tente qui était, que certains peut-être au début auraient voulu à l'intérieur de l'hôpital, était bien visible. Devant l'hôpital, à l'extérieur, au vu et au sus de tout le monde. Et ça, le directeur l'a très, très, très mal vécu pendant 2 mois. Il n'en a pas fait un ulcère, mais parfois il était très en colère. Et il nous a même d'ailleurs menacé d'huissier. Il s'est retrouvé avec 300 personnes devant le jour où il était attendu, puisque le préfet n'a pas validé l'expulsion. On a vu deux fois un autre huissier qui est venu, qui nous a demandé des noms. Alors, pas un type d'anecdote, il y avait présent sous la tente Thibault, que vous connaissez, pour la CGT, et Annick Coupé, pour Solidaire. Voilà, c'était assez intéressant. Sur Thibault, quand même, elle a un peu tiqué, cette dame. Elle n'a pas reconnu, quoi.
Alors moi, j'ai une petite remarque sur laquelle je rebondis par rapport à votre discours. Enfin, je voudrais vous remercier pour le fabuleux travail que vous faites, la présentation, là, puis votre présence. Mais je rebondis par rapport à notre société. On vient d'avoir une petite discussion par rapport aux malades. Et moi, ça me choque d'entendre on a été soutenus par les malades parce que, ou les patients, et qu'il passait dans sa petite voiture, et puis il disait « Allez-y, allez-y, battez-vous ». Et quelque part, je trouve qu'on vit dans une société qui favorise trop la scission ou le clivage. Et aujourd'hui, nous sommes des soignants en train de se battre pour des patients qui sont encore une fois maintenus dans cette position en exergue, en dehors de la société, ou dans le combat, ou dans notre lutte, on a du mal à les intégrer.
Non, permets-moi de me révolter.
Allez-y.
Non, les patients, s'ils veulent, peut-être pas partout, mais quand même, je crois qu'ils ont beaucoup de confort aussi à être assistés. Et alors, bon, c'est sûrement très schématique ce que je dis, mais par exemple, quand ils venaient se faire payer un café à l'entrée de la tente, moi je pensais, mais c'est eux qui devraient nous soutenir, quoi, voilà. Non, je crois quand même que ils sortent pas facilement de leur position. Bon, c'est difficile de généraliser et tout ça, mais c'est vrai que ça demande. Enfin, je suis beaucoup plus en accord avec ce que dit François dans le sens où ça demande un temps fou énorme de quelqu'un qui arrive à entre guillemets socialiser sa maladie et son délire au point de mesurer, de pouvoir en parler à un soignant, de mesurer que s'il en parle au toubib, il risque d'avoir une augmentation de traitement, ce qui va avoir tel inconvénient, etc., etc. Enfin, ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avant d'en arriver là. Et je crois, après, n'oubliez pas ce que disait Patrick Chemla. En disant mais des fois c'est trop ouvert, des fois il faut du fermer. Voilà, je pense quand même que c'est compliqué. Enfin voilà, c'est compliqué quoi. C'est pas ok sur le fait que la psychiatrie les maintient en position d'assister et tout ça, mais je crois que nous on essaye quand même beaucoup beaucoup de travailler autrement quoi. Voilà. Et tiens, voilà. Finalement, vous me faites me rappeler que donc nous faisons une lecture publique de l'atelier de poésie d'un atelier de poésie qui a lieu en milieu psychiatrique, donc au théâtre du Grand Rond, le dimanche 30 janvier à 15h. Donc ce sont des patients qui font une lecture de poésie et vous y êtes invités, c'est gratuit, on peut boire un coup. Voilà.
Moi, je voulais juste dire que la petite anecdote, là, c'est de la réalité, quoi. Je l'invente pas. Après, on se rend compte quand même que nos patients, ils comptent sur nous, ils comptent sur les soignants pour porter leur parole, parce que c'est déjà difficile pour eux de s'occuper d'eux. Donc, militer. Alors, évidemment, il y en a certains qui y sont hein, dans l'action, mais voilà, l'attente, le but de l'attente, c'était quand même pas de les mettre à contribution et de dire, bien qu'ils étaient invités, hein, ils étaient pas rejetés, mais on sentait bien que, mais ils étaient contents qu'on le fasse. Et ils avaient bien conscience que c'était pas que pour nous, quoi, que c'était pour eux. que nous, notre but, c'était travailler dans de meilleures conditions pour qu'il y ait de meilleures conditions de soins.
Bon, j'avais bien conscience que mon intervention était choquante, mais j'ai peut-être mal présenté ma réflexion. C'est beaucoup plus au niveau de la société, ouais. Où même nous avons des patients actuellement, mais il y a beaucoup de gens qui sont des patients qui se sont stabilisés, qui vont bien aujourd'hui, etc., et qui ont peut-être aussi parfois du mal à entrer dans une démarche pour faire changer les choses au niveau de la société. Mmh. Et je faisais une simple question sur ce clivage qui existait au niveau général, voilà, sans remettre en cause.
Oui, moi je voulais parler un peu d'un petit rayon de soleil dans ce documentaire qui était ce jardin thérapeutique. Moi, en fait, je suis artiste plasticien et c'est un domaine dans lequel j'aimerais travailler dans votre domaine en sachant que je n'ai pas des connaissances médicales, mais la pratique artistique. Et je voulais savoir comment entrer en contact avec vous, enfin les patients, et comment est-ce que c'est possible au niveau associatif, puisqu'on a un collectif, nous on vient de Revel, humanistes, artistes réunis, est-il possible de pouvoir apporter ce bien fondé artistique, je pense, la petite voix, justement, la transmettre par l'expression artistique et, est-ce qu'il y aurait un retour possible ou un travail possible?
Ça, c'est important. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que finalement, il y a souvent, au sein du dispositif de soins, on utilise des activités artistiques pour justement permettre un peu l'expression de l'émotion et l'expression de ce que tu as à l'intérieur, etc. Donc, à une époque, on a même rêvé que, finalement, avec toutes ces initiatives d'ateliers thérapeutiques, artistiques qui existaient au sein de l'hôpital, on puisse créer un réseau de rencontres et de liens entre, finalement, ces ateliers artistiques thérapeutiques et tout ce qui existait au niveau culturel, sur Toulouse et ailleurs. Mais là, je parle de Toulouse parce que... Et on avait même imaginé qu'à un moment donné, finalement, on construise à l'intérieur de l'hôpital, ça aurait été mieux que d'ailleurs des prisons psychiatriques, un espèce de grand centre culturel où auraient pu se tisser des liens entre les initiatives de ce qui se passait dans les ateliers thérapeutiques au sein de l'hôpital et tout ce qui se passait au niveau artistique à l'extérieur. Parce que je trouve, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un peu, alors c'était difficile de parler comme ça dans un micro, mais de poésie, le côté artistique, moi je trouve, alors je ne sais pas comment le dire, mais c'est vachement, je trouve que la folie est absolument nécessaire. Hein, c'est-à-dire que, alors on ne va pas faire qui est fou, etc. Mais la folie finalement, c'est une expression absolument extraordinaire de la différence. Et que je veux dire que ce qui me paraît important dans le soin, quel qu'il soit, c'est qu'évidemment qu'on est bien conscient que le soin, ce n'est pas toujours rigolo et on ne fait pas toujours youpi, tralala. Mais je veux dire, moi, ce qui me semble important dans quelqu'un qui est en souffrance, c'est à la fois, c'est vrai, de contenir sa crise excessive pour pas qu'à un moment donné, on soit submergé, lui et nous. Mais à un moment donné, à travers le soin, de pouvoir faire ressurgir ses capacités d'expression, d'émotion, etc. C'est ça qui a fait la vertu de ce que même on appelle la psychothérapie institutionnelle, etc. C'était que ça. Alors moi, je suis absolument... Hein, ben, il en est qu'actuellement, malheureusement, j'ai l'impression que petit à petit, ces médiations artistiques sont en train quand même un peu de disparaître. C'est-à-dire, on considère que finalement, ces ateliers sont moins rentables que ces espèces de protocoles comportementaux, cognitifs, qui font le fleuron de la rentabilité. Voilà. Et moi, j'ai peur qu'effectivement... Alors, ça résiste. Hein, il existe encore des choses. Hein ? Mais oui. Bon, voilà. Bon. Alors, elle me prend.
Précise. Non, je peux dire qu'il y a je peux donner une réponse très précise. Bon, il y a des artistes qui travaillent à l'hôpital. Il y a une convention qui existe qui s'appelle Culture à l'hôpital. Voilà, par exemple, moi, dans l'atelier de poésie, je travaille avec une comédienne, il y a des artistes peintres et tout ça. Voilà. Hein ? Au sein de l'hôpital. Mais il y a des patients qui... Enfin, je crois que dans un service de l'hôpital, il y a des patients... Enfin, j'en suis pas sûre, mais je crois bien qui sont... qui travaillent avec une sculptrice et qui vont dans son atelier. Mais bon, ça, je crois que ça a été aussi en pédopsie, non ? Ils sont aussi allés dans l'atelier du peintre parce que c'était... Bon, mais enfin, peu importe, il y a des artistes qui rentrent dans l'hôpital et tout ça, mais voilà, ça, c'est très ponctuel. Enfin, c'est ponctuel. Ben, il faut... ça passe par l'intermédiaire d'un soignant ou d'une soignante qui porte le projet et qui va servir d'intermédiaire, enfin, au moins un ou une soignante. Voilà. Voilà. Il y avait plein de doigts qui se levaient.
Oui. Moi, je voulais dire simplement qu'à l'hôpital Marchand, tout au public qu'il est, il n'y a pas que des fous quand même. Il y a aussi des gens qui sont simplement... Déprimé, me semble-t-il, non ?
Il y a beaucoup de cliniques.
Hein. Comment ?
En Haute-Garonne,
il y a beaucoup... On dirait à vous écouter qu'il n'y a que des fous dans les hôpitaux psychiatriques.
Il y a beaucoup de cliniques en Haute-Garonne. Il y a 1000 lits de psychiatrie en clinique privée. Et oui. Il faut reconnaître qu'elles prennent... une clientèle entre guillemets plus facile et que la majorité des gens déprimés vont en clinique privée, je crois. Il doit y en avoir à Marchand, mais il y en a.
Oui, mais est-ce que les infirmiers de ces cliniques sont solidaires dans votre démarche militante avec vous ? Ou est-ce que c'est une question de service de défense du service public ? Tout simplement donc une question purement politique.
Pas uniquement, on parle ici effectivement de la défense du service public, mais aussi d'une idée du soin à laquelle on tient et d'une façon de le faire qu'on a apprise ou expérimentée. Ça dépend des parcours. Moi, pour avoir travaillé dans les cliniques privées du département, je peux dire que ces questions-là sont très difficiles à poser dans ces établissements. C'est extrêmement compliqué parce que les carences d'effectifs qu'on constate à l'hôpital sont pas encore arrivées au niveau de ce qui se passe dans les cliniques. On a un effectif minimum du minimum qui est, on prend la directive du ministère, qui est en fonction du nombre de lits sur un étage. Le directeur d'établissement doit assurer qu'il y a tel nombre de soignants équivalent temps plein embauché sur le service, et il applique ça à la lettre.
Oui.
C'est-à-dire que c'est très très compliqué dans ces établissements-là d'avoir du temps syndical, du temps de formation, de tomber malade, parce que à ce moment-là, les collègues font du travail en plus. Donc dans ce contexte-là, les gens qui ont connu dans ces établissements, malgré tout, qui ont connu une époque où même dans le privé, on était dans une quête du sens et du soin, d'une approche globale de la personne avec ses problématiques, n'en sont plus là parce qu'on fait du flux tendu et la tarification à l'acte, c'est une réalité dans le privé. On la redoute à l'hôpital, elle arrive à grands pas, mais dans le privé, c'est une réalité. Et c'est très, 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 très difficile pour les administratifs dans les cliniques de psychiatrie de chiffrer des actes qui vont leur faire rentrer la comptabilité qui fait tourner la boîte. Donc, dans ce contexte-là, les collègues qui travaillent dans le privé ont peu de disponibilité pour se poser ces questions-là.
Donc, c'est vraiment dommage, me semble, parce c'est que ce n'est pas l'intérêt des infirmiers ou de l'institution, c'est l'intérêt des patients. Et il me semble serait bien d'établir une solidarité avec eux, d'une manière ou d'une autre, même si ce sont des salariés d'entreprises commerciales, voire de holdings, etc., comme Capio et autres. Bon, et ensuite, la dernière question, la chose dont je voulais parler, c'était certainement beaucoup de gens ici ont vu le film de Sandrine Bonner. Enfin, le titre, c'est pas ça, hein. Vous voyez de quoi je parle, là, ce film, ce documentaire dans lequel elle parle de sa sœur qui est autiste, qu'elle a essayé de maintenir à domicile pendant le plus longtemps possible, et qu'à terme, elle a été obligée de l'hospitaliser. Et la grande question qui est posée, puisqu'il n'y a pas de réponse, justement, la grande question qui est posée par ce film, c'est est-ce que j'ai bien fait de mettre ma sœur dans une institution psychiatrique ? Donc, c'est le sens de l'institution psychiatrique dans cette société capitaliste, comme sens qui est posé avant tout, me semble-t-il, aussi, quoi.
À travers votre question, vous posez aussi, parce que vous parlez du mot folie, c'est la grande question. En fait, je sais pas, hein, mais je veux dire que derrière ce mot, qu'est-ce qu'il y a, hein, parce que folie, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, voilà, je veux dire, c'est une question, à mon avis, qui est quand même assez importante, mais on ne peut pas en débattre là ce soir, c'est pas possible.
Et peut-être d'abord signaler simplement ou constater simplement que c'est pas la personne malade qui va se positionner ou qui va se définir au travers de la folie, et c'est la société qui va lui coller l'étiquette d'abord. Je suis fou pour les autres. Pour moi, je ne suis pas forcément fou. C'est les autres qui sont fous, c'est éventuellement. Mais moi, on me colle effectivement cette définition ou cette qualité-là. C'est les autres qui vous définissent.
Oui. Je suis un quidam. D'abord, je veux dire que l'art à l'hôpital, c'est très important, parce que quand les malades sortent de l'hôpital et qu'ils vont dans des GEM ou dans des services d'accompagnement à la vie sociale ou d'autres structures d'accompagnement, ils demandent encore qu'on continue les activités artistiques, que sur tous les plans, que ce soit poésie, écriture de romans, peinture, sculpture, et également les activités jardin, si ça marche beaucoup. Donc ce lien avec les autres structures, ça me paraît important. Si on commence à l'hôpital, on continue. D'autre part, ce que comme je suis dans ces... J'ai participé à la création de plusieurs structures dans le Tarn et dans l'Ariège, pas dans la Haute-Garonne. Donc je peux témoigner de ça. Il y a eu d'ailleurs au départ des gens, des infirmiers psychiatriques de l'hôpital d'Auch, qui sont venus nous aider dans le Tarn, et ça a essaimé. Il y en a dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Ariège. Il y a eu un travail à partir des infirmiers psychiatriques. Moi, je ne veux pas mettre les psychiatres sur la touche, parce que c'est eux qui encouragent les infirmiers, mais les infirmiers font un travail remarquable. Et ce que vous dites par rapport aux patients qui osent dire à l'infirmier beaucoup plus qu'au psychiatre, alors ça, j'ai pu le vérifier X fois. D'autre part, je peux témoigner que quand des patients ont eu la chance d'avoir des infirmiers qui les écoutent et qui les écoutent et qui les écoutent, ils s'en sortent, ils peuvent vivre dans la cité, ils peuvent trouver un travail, ils peuvent trouver une compagne, et ils peuvent même avoir des enfants et les assumer. Voilà, j'en connais. Et je voudrais remercier au nom de tous ces patients, tous les infirmiers qui sont là. Voilà. Et j'aimerais savoir comment on peut, en tant que famille finalement, et que comment on peut être avec vous un peu plus.
Ben, il faut qu'on fasse une association.
Voilà. Oui, il y a effectivement... Le moment où le film parle de la ferme, là, du travail, c'est important. Il y a l'écoute qui est fondamentale, effectivement. Et puis, il y a l'accompagnement. Vivre avec, accompagner, c'est fondamental. Et c'est ça, effectivement, que la tarification à l'activité coupe en premier. Si, effectivement, l'infirmier a... comme objectif du fait de sa hiérarchie, de cocher, de définir son temps de travail avec des actes minutés, une piqûre, délivrer un médicament, des tas d'actes comme ça qui sont définis par des protocoles, il va forcément manquer le moment vide, le moment où je ne fais rien et où effectivement... je sors et je vais faire un tour avec le patient. Et le moment où je vais faire un tour avec la personne, c'est un moment essentiel. C'était vraiment un moment essentiel. Ce moment-là, effectivement, il disparaît. Il disparaît. Il n'est plus possible, hein, à partir du moment où le soin est compté à l'activité et où les activités sont prédéfinies et quantifiées. Hein. Et puis l'activité, effectivement, permet de définir le nombre de postes nécessaires. Hein. Donc, voilà, c'est la logique comptable. Hein.
Il faut remarquer que ça transforme les médecins en comptabilisateurs.
gestionnaires de moyens. Et qui vont être rémunérés à l'activité aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une part variable du salaire indexée à l'activité que l'on fournit. Donc on a intérêt à faire plus d'activités. Donc à, quelque part, rentre, parce qu'il y a de plus en plus de malades qui rentrent, qui sortent. Et voilà.
Alors,
mais je pense quand même que effectivement, dans la qualité des activités, pourrait disparaître à long terme tout ce qui est du domaine artistique. Hein. Je pense que... Alors, hein ? Ah, mais oui, on va se battre. Mais je veux dire que, attention, parce que, vous savez, on est arrivé à des extrêmes. Hein, je veux dire, donc, à mon avis, il y a des choses qui sont un peu sur la sellette. Hein, mais à mon avis, bon, on va résister. Hein, de toute façon, on va résister. Mais voilà. J'ai bien peur quand même. Hein, voilà.
Alors, bonsoir tout le monde. Je n'ai rien à voir avec le milieu psychiatrique, etc. Je suis travailleur social, donc plus dans le milieu d'éducation spécialisée. En fait, je voulais réagir par rapport en réaction avec tout ce que vous disiez, qui m'énerve. Non pas parce que vous dites des choses qui sont pas désagréables, mais une vraie réalité qui est celle de la politique sécuritaire, qu'elle soit financière ou et même au niveau des problèmes que peuvent susciter les personnes que l'on peut accompagner. Et moi, je voulais savoir, justement, revenir sur la question de la transversabilité que vous pouvez avoir avec les autres professionnels, tels que éducation spécialisée ou école, et quels sont les moyens que vous avez mis en place ou à mettre en place, justement, pour coordonner nos actions, parce que je pense que la question de la sécurité, d'économie, des budgets, de logique d'entreprise qui arrive dans tous ces milieux où, normalement... la place de l'humain est à mon sens fondamentale. Donc je voulais savoir quels étaient les dispositifs qui étaient mis en place pour défendre justement les valeurs que vous défendez ici.
Alors, moi, il me semble que ce dispositif existe déjà depuis pas mal de temps, puisque en ce qui concerne tout au moins la Fédération Sud, je crois, y compris Sud, j'en suis sûr, pardon, et la CGT, entre autres, plus peut-être d'autres organisations syndicales, les liens sont déjà tissés depuis longtemps. À la fois par rapport à des questions dont tu viens de parler globalement, et par rapport aux lois sécuritaires. Et les coordinations et les actions communes existent. Alors je pense, je ne sais pas où tu travailles, mais je pense que, et y compris des liens avec l'éducation nationale, existent également depuis longtemps par intermédiaire de la FSI. Donc, je ne sais pas où tu travailles, mais je pense que tu dois être en capacité, sur ton lieu de travail, de rencontrer des personnes... Qui effectivement sont en capacité de répondre. Parce que je n'ai pas envie de faire un historique là, quoi. Voilà, tout simplement. Autrement, tu vas sur les sites, tu trouveras facilement.
Oui, moi, ce qui me choque un peu dans ce qui est dit, c'est une façon de présenter, enfin, de parler de la folie et de la souffrance mentale comme si c'était quelque chose, une question individuelle, une question de structure individuelle. Alors que cette folie, cette souffrance mentale, elle se manifeste dans une société dont on peut penser que bien des mécanismes, justement, favorisent des décompensations. Et bon, vous parlez d'une perte de sens dans votre travail, vous parlez d'un risque de solitude, d'une solitude à laquelle il ne faut pas se laisser aller parce que c'est un réel danger. Mais je crois que tous les secteurs professionnels et la société tout entière est en proie à des difficultés comme celle-là. C'est-à-dire, c'est dans tous les secteurs professionnels que qu'on est confronté à cette question du sens. Et ça, ça rend fou. Donc, il me semble qu'à l'hôpital psychiatrique et dans les cliniques psychiatriques se déverse toute une misère sociale. Et ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'une des façons de résister, de retrouver du sens à votre activité de professionnel de la souffrance mentale, est-ce qu'une façon de résister, ça n'est pas aussi d'établir, de rappeler, de marteler peut-être le lien entre souffrance mentale et souffrance sociale? Parce que dans ce qu'on a vu dans le film, on voit bien qu'il y a des enjeux financiers au traitement actuel de la souffrance mentale. Il y a des labos qui ont tout intérêt à ce que on soigne avec des médicaments plus qu'avec une prise en charge thérapeutique, mais il y a aussi des enjeux idéologiques, c'est-à-dire que la souffrance mentale, il y a aussi un enjeu idéologique à la faire, Enfin, il y a un enjeu idéologique à faire passer la souffrance sociale pour une souffrance individuelle et mentale, non ?
Oui, on parle de sens. Voir la psychiatrie comme un système symbolique, comme une conception anthropologique, sociologique. Et la psychiatrie, c'est un système symbolique qui a eu beaucoup de sens pendant 2 siècles, hein, qui, parce qu'il permet de déplacer vers l'individu, le psychisme, et vers la médecine, la souffrance sociale. Hein. Donc c'est un système symbolique qui a été très utile à une époque où, à la fin de la religion, où le scientisme positiviste a pris le pas de la religion. Mais le problème actuellement, et c'est aussi quelque chose qui a contribué à l'avènement d'une société très hygiéniste et très narcissique, hein. Tout était effectivement la souffrance se déplacer vers le champ de l'individu et le champ de la science médicale. Et le problème, c'est que maintenant, c'est repris ce système symbolique comme un système de propagande. Donc là, dans la désymbolisation, hein, dans la perte de sens, effectivement, collectif, politique, une espèce de paranoïa, de société paranoïa, comme dit Jean Furtos. Hein, et cette société où, finalement, toute souffrance serait niée pour être déplacée vers le champ individuel et le champ scientiste, les neurosciences, le film en parle beaucoup, pour, encore une fois, servir les intérêts, finalement, du néolibéralisme et du système sarkozyste néolibéral, hein, c'est-à-dire de nier la violence qu'il génère, donc nier toute cette souffrance, cette folie sociale qu'il génère, et de naturaliser la norme et de la faire rentrer à l'intérieur du sujet, du psychisme et de la médecine. Hein. Donc on voit comment il y a ce processus de déplacement symbolique avec cette folie qui consiste à faire semblant de croire que la folie sociale, la souffrance sociale est inscrite dans le cerveau des gens, voire dans leurs gènes. Hein. On est là dans quelque chose de l'ordre aussi de la prophétie autoréalisatrice. On voit bien comment, finalement, 2 siècles après, la métaphore médicale a été prise au mot. Au départ, le discours médical a été un discours d'allure scientifique, donc qui a pris le pas de la religion, et qui était un discours purement symbolique, hein, qui conciliait des valeurs contradictoires de science et de morale, d'individus et de société, de contrôle social et de liberté. Et tout ce système symbolique extrêmement fort qui donnait du sens à la souffrance est devenu maintenant un redoutable système paranoïaque, hein, visant à nier la souffrance sociale pour mieux servir les intérêts du pouvoir en place. C'est comme ça qu'on peut le voir d'un point de vue sociologique.
Quand même, votre question, elle est très très importante.
C'est fou. Il y a ceux qui arrivent en prison et ceux que la prison fabrique. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, comme disait un philosophe du début du XXe siècle, que je suis mon corps. C'est-à-dire que tout passe quand même par mon corps. Et ce qu'on observe en prison, par exemple, c'est que la coupure brutale avec le milieu, avec les relations, les liens sont coupés radicalement et je me retrouve tout seul dans un milieu hostile et à ce moment-là je vais réagir en fonction de mes faiblesses ou de ce qu'est mon corps. C'est-à-dire que certains vont développer un cancer, il y a énormément de cancers qui se développent en prison. Certains vont développer d'autres pathologies physiologiques ou physiques et il y en a d'autres qui vont effectivement décompenser, c'est-à-dire développer un ensemble de symptômes psychiatriques, proprement psychiatriques, alors qu'ils n'avaient jamais eu d'antécédents psychiatriques, et qu'une fois sortis, ils vont pouvoir effectivement reprendre un équilibre, se réinsérer, et que la pathologie va disparaître. Le cancer, par contre, lui, il va rester souvent.
Oui, simplement pour préciser peut-être un petit peu mon idée, c'était de souligner donc qu'il y a une violence sociale actuellement qui produit aussi de la souffrance mentale et des décompensations. Voilà, et que peut-être, enfin, il me semble moi qu'un des enjeux de la psychiatrie aujourd'hui se tient là. C'est un enjeu politique, c'est-à-dire il y a une tentative de psychologiser la souffrance sociale. Et parler de la maladie mentale comme si elle était en dehors de tout contexte social, ça me semble quelque chose de dangereux. Tout seul dans un milieu hostile, c'est pas seulement ce qui arrive en prison aujourd'hui, c'est ce qui arrive un peu partout dans la société. Hein, tout seul dans un milieu hostile, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. de se retrouver dans des rapports avec les autres qui sont des rapports concurrentiels, dans lesquels toute confiance s'effondre. Et moi, je pense que ça rend fou, effectivement, et que le problème posé par la psychiatrie aujourd'hui, il est lié probablement à des structures psychiques, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais il est lié, enfin, il est un effet d'une violence sociale énorme.
Oui, d'où les suicides dans certains milieux, de travail.
Je suis parfaitement d'accord.
Oui, en même temps, je ne sais pas, c'est compliqué ça. C'est compliqué parce que il faut pas tout mélanger. Il faut pas. Est-ce que c'est notre. Enfin, comment dire.
C'est une question de tous les œufs.
Non, mais oui, c'est compliqué.
Non. Je dis que c'est compliqué parce que, au fond, si on connaît notre domaine, de s'occuper des patients qui ont décompensé, etc., etc., ok, on connaît notre domaine. Mais on peut, en tant que citoyen, particulièrement sensible, mettons, à la souffrance mentale, alerter sur la société d'aujourd'hui. Voilà. Mais. Je sais pas comment m'expliquer, mais il ne faut pas tout mélanger. Enfin, il ne faut pas. Olivier, peut-être tu as des idées, je ne sais pas.
Oui, c'est-à-dire que se joue quand même dans la folie individuelle la question de la liberté, hein, et la liberté en opposition face à effectivement, une violence sociale, intrusive, normative, qui nous écrase, qui nous assomme. Et la folie individuelle, c'est Lacan qui disait que. L'être de l'homme porte en lui la possibilité de la folie comme limite de sa liberté. Donc c'est cette revendication, ce cri, hein, la revendication de sa liberté, qui est certainement la question que pose la folie face à la violence sociale qui nous écrase tous.
Dostoïevski, il disait, la psychothérapie institutionnelle, c'est deux jambes. C'est on lutte contre l'aliénation mentale, on lutte contre l'aliénation sociale. Voilà. Peut-être que, mais en même temps. Ça a le mérite de dire que ce sont deux aliénations, mais en même temps de les distinguer.
Et pour reprendre ce que tu disais, la question effectivement de la fin du monde comme expression de la folie, hein, ce n'est pas qu'une question d'expression de folie individuelle. La question effectivement de la fin du monde se pose, l'eschatologie, la religion, depuis des millénaires, l'évacuer en disant que c'est qu'une question psychologique personnelle, c'est naturellement de l'ordre du déni et de la projection.
Lui, hein. Dans le titre,
tout à fait, mais déplacer ce vécu de fin du monde dans la folie individuelle, c'est quelque part avoir une volonté, tu en parlais tout à l'heure, culturelle, de nier ce qu'il peut y avoir de violent dans la société, qui peut remettre en cause les limites du monde et du futur. Donc c'est une question très complexe. Je pense effectivement, et les psychanalystes l'ont pensé comme moi, bien mieux que moi. Freud a parlé quand même de délire collectif pour la religion. Lacan a quand même parlé de psychose sociale. Hein, je parlais un petit peu tout à l'heure de sa société paranoïaque. Je pense qu'effectivement, il y a une violence sociale qui s'exacerbe, une accélération terrible du rythme de vie, quelque chose qui nous écrase, qui nous assomme, qui nous entraîne, une espèce de fuite en avant, face à laquelle, effectivement, je pense que de plus en plus de gens sont fous, deviennent fous, ne peuvent que devenir fous. Hein, voilà, j'en suis persuadé.
On est dans une société qui n'a plus de dehors, c'est-à-dire que tout est enfermé. Tout est enfermé, c'est-à-dire que même les loisirs sont tellement paramétrés qu'il n'y a plus d'extériorité.
À tel point que je pense, bien sûr, et je pense que la folie la plus sournoise, la plus dangereuse, la plus universelle, c'est la normopathie, hein, c'est la servitude volontaire, c'est le conformisme pathologique de masse. Et c'est ça, effectivement, à quoi on est tous condamnés dans ce système actuel. Donc, effectivement, peut-être que la folie est universelle, maintenant.
Oui, il y a un exemple concret. Oui. Il y a un exemple concret. Les équipes psychiatriques qui travaillent au sein des SMPR, dans les maisons d'arrêt, se rendent compte quand même que de plus en plus, effectivement, il y a un danger d'instrumentalisation. Là, c'est-à-dire que la psychiatrie en prison peut, d'une certaine manière, participer à la paix sociale de la prison. C'est-à-dire que finalement, comment on évite les phénomènes de révolte en prison, c'est en filant des anxiolytiques et des antidépresseurs à tous les détenus. Parce qu'il faut voir. Il faut voir ce qu'on distribue comme cacheton en prison. Et effectivement, sous prétexte que les gens, quand ils rentrent en prison, effectivement, sont forcément pas bien, hein, parce que c'est pas l'univers, c'est pas les bisounours, ça, la prison. Mais je veux dire que, à un moment donné, eh bien, finalement, en distribuant, en mettant les télés écrans plats en prison, et en distribuant des anxiolytiques, des antidépresseurs massivement, on participe à la paix sociale des prisons. Et il y a moins de révoltes, etc. C'est terrible. C'est terrible pour les équipes qui travaillent dans ces lieux et qui essayent de faire aussi très honnêtement le travail en essayant justement de, des fois, de voir des gens, d'être en relation avec eux, d'atténuer des souffrances. Voilà.
Et alors, c'est intéressant là, ce qu'il dit, parce que, par contre, effectivement, il y avait d'autres solutions qui ont été testées au long des années pour canaliser la violence, maintenir effectivement une certaine cohérence chez les gens emprisonnés, hein, en cellule. C'est effectivement l'art-thérapie, hein, qui effectivement a été développée régulièrement. Il y a des ateliers qui ont ouvert dans les prisons et ils tiennent pas. Ils tiennent pas parce qu'à un moment donné, eh bien, il vaut mieux utiliser la télé, écran plat et les médocs qu'effectivement accompagner les détenus, les extraire de leur cellule, les accompagner à un atelier où effectivement ils se remettent à penser. Il faut le gérer après. Donc ils tiennent pas. Il y a eu beaucoup d'expériences et les expériences, elles tiennent un temps et puis... La pression de l'administration finit par l'arrêter.
Et on parlait tout à l'heure de camisole chimique, hein, et j'avais parlé un peu du bonheur obligatoire. C'est vrai que vous avez bien vu dans le film, et je crois que ce sera bientôt plus la science-fiction, donc la neurostimulation cérébrale qui permet de rendre heureux. Et la petite puce électronique, le professeur Agide, là, le directeur scientifique de l'Institut du cerveau de la moelle épinière, pense qu'on va pouvoir implanter à tout le monde pour finalement agir directement sur le cerveau et modifier les émotions des gens. Donc, voilà, l'avenir radio, la flicaterie est là. Ce sera vraiment merveilleux.
J'avais demandé le micro pour faire remarquer à la dame qui a introduit la notion de souffrance sociale que de la même façon que la psychiatrie est le résultat d'une construction, la souffrance sociale, ça a l'air de quelque chose qui tombe sous le coup du bon sens, mais c'est aussi une construction qui est assez récente et dont les arrière-plans sont pas clairs du tout. Et il y a des gens qui étudient ça. Il y a bientôt la CRS, des gens qui vont se réunir pour discuter de ça. Et en particulier, quand ça se tourne sous la question de traiter la souffrance sociale. Parce que là, on se rend compte que la demande de traiter la souffrance sociale recouvre des choses qui ne sont pas très nettes. Donc ça ne coule pas de source, cette histoire de souffrance sociale, bien qu'on ait envie de le dire et d'enfiler ça comme des charentaises.
Plus de questions?
J'en profite pour faire deux petites annonces avant que tout le monde s'en aille. La première, c'est qu'il y a la pétition « Mais c'est un homme » en tout attaché, hein, qu'on peut signer. Donc c'est l'appel contre les soins sécuritaires, contre cette fameuse réforme de l'acte 90, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, donc avec une mobilisation qui va recommencer certainement au printemps, puisque ça va être discuté au Parlement. Et puis la deuxième annonce, c'est qu'après-demain à Colomiers, mais je ne sais pas où c'est, à 2h30, il y aura donc, dans le cadre de Mais c'est un homme, puisque c'est organisé par la Ligue des droits de l'homme de l'Ouest toulousain, une réunion publique, une conférence débat sur le thème du film finalement, c'est-à-dire la psychiatrie liberticide, le tournant sécuritaire de la psychiatrie. Voilà. Donc à 2h30 à Colomiers, mais je ne sais pas où c'est exactement. Je sais pas si je retenu. Ça devait être en journal aujourd'hui.
Oui. Je voulais revenir à la question de la souffrance sociale. Ça, je trouve que c'est quand même un sujet hyper important. C'est un sujet politique. Je ne pense pas que la souffrance sociale doit être psychiatrisée. Bon, d'autres l'ont dit d'une autre manière, mais ce n'est pas la psychiatrie à régler, me semble-t-il, les problèmes de souffrance sociale. Ce sont des luttes qui doivent être... C'est pas à coup de médicaments qu'on va calmer la souffrance sociale qui est générée par un système politique. Donc moi, je suis pas du tout d'accord pour que, voilà, pour que même à la limite des infirmiers psychiatriques aient un avis là-dessus, quoi. Hein. C'est pas votre rôle. C'est votre rôle en tant que citoyen, évidemment, mais pas en tant qu'infirmier psychiatrique. Je pense à rien avoir dans ce débat-là. Voilà.
Pas non plus exclu de la souffrance sociale.
Comment ?
On est en plein dedans. Nous-mêmes, nous sommes en plein dedans.
Oui, mais c'est pas en mettant les gens qui sont déprimés.
Je parle en tant que citoyen.
Oui, d'accord, mais bon, c'est pas en les mettant dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont décompensé par une souffrance, etc., ou à court de médicaments. Alors là, vous êtes vraiment la soupape du système, quoi. Hein. Donc c'est exactement le contraire de ce que l'on veut faire. Voilà. Ce sens-là, moi, ça m'intéresserait que vous interrogiez sur ce sens-là aussi. Voilà, qui me paraît bien plus fondamental qu'il faut davantage d'infirmiers à l'hôpital psychiatrique marchand. Voilà.
C'est le rôle que le politique veut nous faire jouer, hein, le film a démontré, et c'est effectivement ce qu'on veut refuser d'endosser comme rôle. On est bien d'accord.
Oui. D'ailleurs, effectivement, les soignants de l'hôpital Marchand ne se battaient pas uniquement sur plus de soignants, mais se battaient pour plus de soignants pour soigner autrement. Et les deux sont absolument liés, hein, effectivement.
Oui, moi je me demandais si la souffrance sociale c'était inévitable, c'était évitable, si le fait de vivre ensemble en soi, ça ne générait pas de toute manière, quoi qu'on fasse, un brin de souffrance sociale. Je veux dire que on y laisse toujours des plumes à vivre avec les autres. Enfin, je sais pas. Alors, tout est une. La solution, c'est sans doute un problème de modération. Voilà, mais je crois qu'en fait, le fait de vivre ensemble, ça me limite, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais.
Et c'est bien pour ça qu'il faudrait que la psychiatrie en revienne à des limites épistémologiques très précises. La psychiatrie s'occupe de maladies mentales, elle ne s'occupe pas de troubles du comportement. La confusion actuelle, c'est que la psychiatrie s'est étendue à toute la souffrance sociale parce que des énergumènes scientistes, universitaires et des politiques prétendent en faire une stratégie de santé mentale pour tous. Et c'est bien dans ce travers-là qu'il faut éviter de rentrer. Donc le plus des moyens est ambigu, parce que plus de moyens, c'est quelque part entériner ce risque-là de s'occuper de tout et n'importe quoi. Donc il faut garder les limites précises du champ de la psychiatrie.
Quand on voit ce phénomène récent des suicides au travail, enfin moi je pensais aussi à ça en parlant de cet enjeu politique finalement de la psychiatrie aujourd'hui, c'est que ces suicides au travail, on essaie de les faire passer pour le signe de fragilité individuelle. Alors on entend toujours dire la même chose, c'était des gens qui par ailleurs avaient des difficultés, etc., etc. Et donc on refuse, en utilisant la psychiatrie, on refuse de donner leur sens, enfin de donner son sens un symptôme de ce qu'on peut nommer une souffrance sociale, c'est-à-dire que là, il y a autre chose qui est en jeu qu'une structure individuelle. Il y a toute une organisation sociale, il y a une façon de travailler, il y a des rapports sociaux qui s'expriment par ce symptôme du suicide au travail. Voilà, et souffrance sociale, c'est ce sens-là qu'a le terme.
Oui, mais c'est la réduction.
Et l'enjeu...
Absolument, c'est pour ça qu'il y a une clinique du travail, oui. Qu'il y a une psychodynamique du travail, c'est pour ça qu'il y a le CNAM qui travaille dessus, oui. Effectivement. Pour éviter de faire passer la souffrance au travail comme quelque chose de purement individuel.
Voilà.
Dominique Font-Lebray en parle un petit peu dans le film. Hein. C'est bien abordé quand même.
Absolument. Mais quand j'en parlais tout à l'heure, effectivement, de ces personnes qu'on a traitées suffisamment pour qu'effectivement ils puissent vivre avec leurs symptômes, on ne supprimait pas toute souffrance. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, son prénom, en a parlé, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de lisser. Il s'agit effectivement de rendre possible la vie au quotidien. Hein, rendre possible. Mais la souffrance, elle fait partie, ou une certaine souffrance, ou ça fait partie des émotions, hein, ça fait partie de l'ensemble de sentiments qu'on développe et dont on a besoin pour exister.
Oui, non, mais moi, je voudrais une information un petit peu pratique. Le débat que vous avez est passionnant et j'ai peur d'être très matériel parce que vous avez parlé des écrans plats en prison et là, j'ai vu un écran où il y avait des questions et des dessins et les dessins ne disaient pas exactement la même chose que les questions. Et il y avait un élément qui m'épouvantait légèrement. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai vu la publicité du direct que j'ai pris au métro. La dernière page, c'était un ado qui dit, on lui dit qu'il y a des jeux vidéo qui sont meilleurs que d'autres, et lui, ça l'énerve. Alors ma question, évidemment, vous avez peut-être deviné, je suis enseignant, et je suis préoccupé du rapport de ces nouvelles formes de captation psychique. J'ai lu un petit peu Serge Tisseron, qui a travaillé là-dessus, qui est psychiatre à Lyon, je crois. Et vous, dans votre pratique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses nouvelles, un peu spéciales, dans les comportements que vos patients peuvent avoir dans l'usage des jeux vidéo? Est-ce que l'institution peut avoir envie d'utiliser pour soigner, pour calmer les jeux vidéo, ou au contraire ça, voilà, c'est des questions matérielles. Qu'est-ce que, en 2010, vous pouvez dire de cet élément-là?
Alors, c'est intéressant parce qu'avant-hier, on a eu une réunion de service où on a un petit peu réfléchi à notre règlement intérieur qui, pour faire des économies à l'hôpital, interdit aux patients d'utiliser la ligne téléphonique de l'appartement et leur préconise d'aller utiliser les points phones du quartier. Puisque tout simplement, le règlement intérieur a été écrit à une époque où personne n'avait de portable. Donc, on a poussé la réflexion parce que il y a un poste de télévision dans la pièce commune. Il y a quelques années, les patients qui avaient une télévision, on leur demandait de ne pas en amener une dans leur chambre pour éviter l'isolement parce qu'on travaille beaucoup sur la dynamique du groupe. Mais les choses évoluent. Et actuellement, on a des patients qui ont des ordinateurs portables avec une clé 3G et donc qui ont un accès à Internet depuis leur chambre. C'est difficile puisqu'on travaille dans une relation de confiance d'aller vérifier l'heure de coucher de tout le monde. Et là, alors ça peut paraître étonnant qu'on se pose la question que maintenant, mais il a fallu un peu de temps pour que ces technologies se généralisent dans la société, qu'elles entrent petit à petit dans nos structures parce que nos patients n'avaient pas forcément de moyens ou n'étaient pas les personnes les plus à la page à ce niveau-là. Et là, nous, on en est actuellement à se poser ce genre de questions. Donc, malgré l'ancienneté du téléphone portable et des accès à Internet, c'est encore quelque chose d'assez nouveau pour nous. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a des patients qui ont vécu, qui ont une vingtaine d'années, qui ont vécu toute leur vie avec un ordinateur sous la main et une connexion Internet depuis longtemps. Et quand ils entrent en appartement thérapeutique pour faire une préparation à la vie en autonomie, où ils vont avoir tout ça, c'est compliqué de leur dire bah, « pendant 3 ans, vous êtes chez nous, ça n'existe plus ». On ne peut pas faire ça. Et à côté de ça, on est un petit peu obligé d'intervenir là-dessus pour éviter, au lieu d'avoir un groupe de 6 patients qui expérimentent les conflits, mais aussi le soutien de la part des autres, les moments de groupe qui sont très très importants dans notre projet de soins. Si on a ces 6 patients qui sont chacun dans leur chambre sur Internet, notre travail, on ne sait plus trop où il se passe. Donc là, on est en train, juste là maintenant, en janvier 2011, à réfléchir à qu'est-ce qu'on propose à ces patients en termes de réguler tout ça. Après, je pense que votre question était un peu... En amont, est-ce que les jeux vidéo ou l'isolement devant un ordinateur peut être un signe précurseur ou déclencheur de la pathologie? Moi, je suis assez réservé là-dessus parce que j'ai joué à des jeux de rôle et je pratique beaucoup les jeux vidéo et ça m'agace un peu quand on tape là-dessus. Voilà. Je crois que c'est c'est une modification de l'environnement de chacun d'entre nous qui permet ou qui impose une organisation différente de nos journées, de nos vies, de nos communications. Et donc forcément, pour quelqu'un qui souffre d'une pathologie psychiatrique, elle va pouvoir prendre des formes différentes sur ces matériels-là. Je pense que c'est... Je suis assez convaincu que c'est que en termes de changement, de nouveauté. Je suis pas de, donc de nouvelles formes, peut-être. Mais ah si, forcément, oui, oui. Ah, ben, parce que
pour remplacer les médecins de campagne, programmés dans l'app, ça existe déjà.
Un logiciel, ça coûte un peu d'argent à développer, moins qu'un médicament. Et en plus, après, il n'y a pas de plateforme industrielle pour le produire, il n'y a qu'à faire des copies. Donc forcément, c'est beaucoup plus rentable qu'un médicament, et on voit que déjà sur les médicaments, on gagne de l'argent.
Bon, au moins, il n'y a pas d'effet secondaire.
Oui, moi, j'aurais voulu... là, je crois que c'est le monsieur qui est assis qui... Je reviens sur ce problème de symptômes. Moi, ce que j'avais entendu finalement, c'est que il s'agissait pour le soignant d'aider la personne souffrante à apprivoiser son symptôme finalement, à ce que bon, ces voix qu'il entend, ben ça. Ça lui file plus la trouille, qui les apprivoise véritablement. Et ça me rappelle ce que disait Lacan. Au fond, ce qu'il disait, c'est qu'une thérapie aboutie, ça consistait effectivement à savoir y faire avec son symptôme. À savoir y faire avec son symptôme, voilà. C'est tout. Ouais.
Après, il y a des symptômes qui peuvent être très gênants. Et j'ai vécu un cas intéressant, un patient qui délirait effectivement, un délire d'amour, érotomaniaque, qui avait un délire érotomaniaque et effectivement il délirait sur le juge l'empêchait effectivement de réaliser son symptôme. Donc il a été placé en HO, bien sûr, et avec le médecin était tenu de faire disparaître ce délire-là parce qu'effectivement le juge était menacé. Voilà. Donc, et c'était, là, c'était impératif. Il y avait un ordre carrément donné au psychiatre. Et on s'est rendu compte, nous, à un moment donné, on s'est opposé au médecin en constatant que en faisant disparaître le délire de ce monsieur qui, à notre sens, c'était pas, il était gênant, il l'emmerdait au juge, mais il n'était pas agressif, enfin, il n'était pas menaçant, il était chiant. Et en faisant disparaître complètement le délire, on s'apercevait, nous, qu'il n'y avait plus rien. Il était vide, le gars. Il était vide. Et effectivement, le médecin est allé au bout à vider la personne de son délire, et c'était un zombie. Il n'y avait plus rien. Donc, il y a la demande sociale, hein, il y a la demande de la société. Et des fois, elle est difficile à éviter ou à ne pas entendre. Hein. Mais effectivement, ce qu'il faudrait, c'est limiter et puis donner, garder le sens. Hein. Parce qu'effectivement, un délire, il n'est pas là, il joue un rôle. Hein. Un délire, il joue un rôle. Il vient remplir une fonction. Si je l'enlève sans le remplacer par autre chose ou sans me poser la question de savoir ce que ça vient combler, ce délire-là, quel sens ça a pour la personne, eh bien, effectivement, je risque de mutiler la personne. Ça peut être une mutilation.
Je crois qu'il faut s'arrêter là. On remettra ça une autre fois. Et...
Mais en tout cas, merci d'être resté aussi longtemps. Merci à vous d'être resté aussi longtemps aussi. Et voilà.